Bonjour et bienvenue dans cette émission numéro 508. Amen. Et regardez mes apôtres à côté là, ils sont installés avec leur micro dans la bouche, ou près de la bouche plutôt. Thomas Leroux qui vient de Chantilly.
Ouais, je te savais pas aussi insultant.
Si, j'ai, bah encore là, je suis devant la caméra.
Mais ça fait que ce qu'il voit.
Ça fait longtemps qu'on m'avait pas traité d'apôtre.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, c'est une insulte pour toi?
Exactement.
Bah désolé, je t'appellerai le couffard maintenant. Tiger, qui est venu
alias
nous rendre visite.
Judas, salut.
Judas, c'est lui, Judas.
C'est moi.
Et Plume, je sais pas, le moine.
Moi je trouve la nourriture pas très...
catholique.
Voilà.
Voilà, l'équipe est au complet, il manque Romain mais il est en train de dormir là, donc... On ne peut pas passer tout le monde dans l'émission quand même. Donc l'émission 508, les amis. Et oui, ça vous rappelle rien, 508? Non, ok, c'est pas grave.
Bah, une Peugeot, non, c'est ça?
Non, pas du tout. Alors là, tu es complètement à côté de la plaque.
Ah, okay.
Bon, on va parler de quoi aujourd'hui, en fait, les gars, dans ce podcast?
C'est toi
de
qui
fou.
Fais le sommaire. Hein, donc,
c'est vrai?
C'est pas, bah ouais.
Je préfère pas vous lire les titres parce qu'ils ont été complètement modifiés. Mais on va parler de plein de choses. De Fortnite, le chapitre 2, j'allais dire la nouvelle saison, mais en fait, c'est non, c'est un reboot. Total de la carte et tout ça, donc Fortnite. Il y aura l'Atari VCS qui, très bizarre, on ne sait pas ce qui se passe avec cette machine, sortira, sortira pas, on ne sait pas. Et puis surtout les thèmes principaux ensuite, avec Blizzard et tout, tout le bordel qu'il y a autour de Blizzard. Et,
c'est la tempête.
Ouais, entre la NBA, la Chine, Blitzchung qui a ouvert un peu trop sa
la
bouche.
La NBA.
Ouais, il y a un bisbee aussi à NBA contre la Chine.
Non, non, regarde, non, pas, regarde bien, pas tes notes, fallait s'informer avant.
Peur,
voilà, exactement.
Laisse tomber.
Ah, c'est ouais. Pas grave.
Fallait suivre.
Bref, on vous en parlera tout à l'heure, évidemment. Et ensuite, il y aura évidemment tous les tests que Tiger a fait, entre autres. Et Plume aussi. Plume le Polak.
Et Thomas aussi, en fait.
Et Thomas aussi. En fait, ah, voilà. En fait, on va parler des tests de la semaine qui sont sortis et qui n'ont pas forcément fait l'unanimité, mais on verra ça tout à l'heure. Il y aura l'anniversaire et 20 ans de la Dreamcast. Et oui, déjà. Ça, ah, Thomas, ouais. Je pense que tu as 5 Dreamcast. Chez toi?
Non, non, j'en ai qu'une, elle est là.
Ah oui, toutes les autres, tu les as déjà revendues.
Donc, ne la volez pas.
Sur avec le ses bon presse
coin. Kit. Exactement. Il y aura leur jeu, évidemment, il y aura les 30 ans sur Gameblog, ou Gameblog, si vous préférez. Et voilà, c'est ça le sommaire. Il y aura pas mal de choses, quand même, mine de rien. Hein. Je
oh
pense qu'on
oui.
En a pour 2 heures, là, facile.
Oh là, bon, on peut mettre le compte à rebours tout de suite.
Ouais, on peut mettre un ventilateur aussi, parce ouais. Qu'on commence à avoir un peu chaud. Mmh. Eh bien, c'est parti, les amis. On va commencer par le win, n'est-ce pas? Et
ah
pour le win, bah écoute, c'est Plume qui s'y colle.
Bah oui, le grand spécialiste.
Exactement. Évidemment. Non, mais t'inquiète pas, je vais t'aider.
Non, non, mais en fait, le
j'en suis au même pas que toi, je crois.
Le win, c'est pas tellement la sortie
oui.
de cette nouvelle
chapitre
saison
2,
du chapitre 2 de Fortnite. C'est plutôt tout ce qui a été amené, tout ce qu'Epic a fait pour amener justement à l'arrivée de ce chapitre 2 de Fortnite. C'est-à-dire que en fin de semaine dernière. Comme
c'est dimanche
prévu,
soir en fait. Dimanche soir.
Dimanche soir. La saison 11 s'est arrêtée.
Non, 10.
10, pardon. Ouais. C'était le 11 c'était
non,
pas
non, cette saison 10
okay,
s'est arrêtée.
Donc, la
on croyait 10. Que ça allait être la saison 11.
Ouais. Et en fait, pas
non.
Du tout.
Non.
En fait, Epic a tout coupé.
Voilà.
Son compte Twitter, son compte Facebook, tout sur les réseaux sociaux.
Mais c'est ça en fait qui était bizarre.
Était coupé. Les messages ont été effacés aussi. Et tout ce qui restait. C'était un trou noir.
Voilà, exactement.
Voilà.
La carte a disparu suite à une explosion.
Et plus aucun joueur ne pouvait accéder au jeu.
Bah, tout était fermé.
Il
n'y
avait plus rien. Et ça a fonctionné parce que pendant des heures et des heures, des gens ont regardé une vidéo d'un trou noir, que ce soit sur Facebook, sur Twitter.
Il y avait
sur
du
YouTube,
monde, hein, c'est ça le pire.
Sur Mixer, sur Twitch. Tout ce que les gens ont regardé, c'est un trou noir en attendant de savoir ce qu'allait se passer. Ça s'est. Les joueurs étaient un peu enragés de ne pas pouvoir accéder au jeu.
Il paraît qu'il y en a qui chialaient, mais après, j'ai pas vu de vidéo.
Ah bon, t'as vu des vidéos de gens qui pleuraient?
C'est Eve m'a dit ça tout à l'heure, il y a des gamins qui pleuraient.
Bah voilà, et
le truc.
Ils ont réussi à créer un tel
buzz
engouement,
monumental.
Un tel buzz autour du truc, que c'en est presque.
Enfin, c'est un coup de maître, quoi, quelque part.
C'est assez délirant, en fait, hein, qu'ils aient réussi à faire une communication de la sorte qui marche aussi bien. Et puis maintenant, bah, tout le monde rejoue au jeu normalement. Et j'imagine même que l'engouement va être encore plus fort parce qu'il y a des nouveautés dans ce chapitre 2.
Et puis le manque crée l'envie.
Ah,
c'est exactement
oui.
Ça.
Toujours. La rareté fait que.
Bah, c'est une nouvelle île, 13 lieux différents plus supplémentaires. Une nouvelle façon de progresser aussi dans le jeu.
Ouais.
Vous pouvez gagner des V-Bucks dans le jeu. Enfin, en jeu, vous pouvez en regagner, même si vous achetez le pass de combat. Ça, c'est aussi une nouveauté, c'était pas le cas avant. Enfin, si avant c'était le cas, mais là, on peut gagner 1500 V-Bucks un peu plus rapidement. Alors qu'avant, c'était vraiment au compte-goutte, fallait vraiment faire beaucoup, beaucoup de parties avant de gagner 100 V-Bucks. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu refondu le truc pour que les gens, effectivement, comme tu disais, restent peut-être plus longtemps et soient moins frustrés de la difficulté, entre guillemets, de la précédente version, quoi.
Voilà. Donc comparé à Disney qui eux avec Disney Plus ont balancé les noms de chacun des
films, ça fait pas rêver, hein.
Chacune des séries, il y a 700 œuvres je crois qu'ils ont mis via Twitter et tout le monde
700
était...
ils ont mis, ah ouais,
je crois un truc comme ça,
ouais, dont plein de trucs random, hein, on est d'accord,
bien sûr, okay. Mais en attendant les gens suivaient ça avec attention, ouais. Bah, Epic a fait tout le contraire, ouais. Ils ont fait rien,
ils ont rien fait, ils ont fait
blackout, ça a marché,
blackout total, trou noir, et voilà. Et regardez, on vous prépare ça, bah regardez.
Une opération communication marketing parfaite.
Bah, la preuve que ça a bien marché, parce que ouais. Tout le monde en a parlé, hein, sur les grands médias, BFM, M6,
c'est ça qui est extraordinaire, CNews, ouais. Et machin. C'est qu'ils ont vraiment réussi à créer un oui. Événement au-delà des gens qui s'intéressent au jeu, quoi.
Et ouais, sans que le jeu soit en train de tourner, c'est encore plus fort.
Bah, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas autant parlé de Fortnite.
Exactement. Oui, parce que ça commençait peut-être un petit peu à baisser, tout ça, machin, mais encore que, moi j'ai pas forcément les chiffres, mais je pense que ça. Forcément un petit peu baissé, ce qui est logique. Et là, effectivement, ils relancent le truc. Allez, on vous refait tout à zéro. On repart de rien. Et puis, il y a plein de nouveautés. Du coup, bah voilà, hein, on vous redonne des cartouches pour continuer à vous amuser sur ce titre.
On a rarement eu, quand même, je trouve, avec Fortnite, un phénomène qui touche autant de gens, quoi.
Ah bah,
quand on voit les footballeurs comme Griezmann qui font des célébrations, et forcément, vu que c'est les adultes qui souvent mettent la main au porte-monnaie pour payer les skins, les différentes choses des plus jeunes, parce que c'est quand même un jeu qui est surtout plébiscité par les jeunes adolescents ou les enfants. Ouais. Moi, je trouve ça encore exceptionnel que dans un univers de jeux vidéo comme ça, on arrive à créer un tel événement et tout le monde s'est en tout cas intéressé et interpellé par cette idée de couper les serveurs, de faire un trou noir,
ouais.
On remet tout de zéro, enfin c'est quand même
et
hallucinant,
tout le monde est intrigué
et ça montre l'impact culturel actuel de ce jeu qui est à mon sens quasiment sans aucune mesure.
Et pour te dire, quand j'ai fait la réunion parents d'élèves et professeurs, ouais. Dans l'école de mon gamin, ils ont parlé de Fortnite.
Bah, bien sûr.
En disant que beaucoup de gens jouent à Fortnite et que ça devenait entre guillemets un problème, quoi.
Ouais. Et qu'ils venaient de s'y mettre aussi et que.
Bon, je me suis fait tous plier à ce moment-là quand ils ont parlé de Fortnite, tu sais. J'ai pas voulu dire, mais non, mais c'est pas grave, c'est rien.
T'as enlevé ton t-shirt.
C'était un peu fou, quoi.
Non, parce que le dernier exemple en date qu'on avait eu de phénomène comme ça majeur pour moi, c'est à mon sens Pokémon Go.
Et ouais. Mais Pokémon Go, c'était éphémère quand même. C'était le temps d'un été, quoi.
Disons qu'en tout cas,
le méga engouement, c'était le temps d'un été.
Enfin, en tout cas, la visibilité médiatique est moindre ce qu'elle était. Exactement. Et en effet, c'est vrai que c'est la réussite des pics, quoi. Ouais. C'est de réussir à toucher toutes les franges de la population.
Exactement.
Quoi.
Mais Fortnite, c'est presque devenu. Je vais jouer à un jeu vidéo, c'est Fortnite. Comme je vais jouer à une console, c'est la PlayStation, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu.
Bah, d'autant plus que parallèle. Quand on s'y intéresse un peu, on constate que dans le jeu Fortnite, en fait, il y a des dizaines de jeux en un, quoi. Maintenant,
oui,
qu'il y a les sphères où on peut aller dans Gotham pour vivre les aventures façon Batman. Il y a d'autres zones où on peut être en gravité zéro. Enfin.
Oui, ils ont vraiment fait le truc.
Ah bah, puis toutes les semaines, ils mettent des mises à jour, des machins. En plus, en moins, tout le temps. Il y a toujours du mouvement.
Enfin voilà, tout ça pour dire que même si parfois c'est peut-être un peu regarder avec dédain, peut-être parce que certains sont plus assez jeunes peut-être pour s'y plonger complètement. Moi je pense vraiment que si on avait eu 12-13 balais à cette époque là on serait fou de ce jeu, parce que moi j'y trouve énormément de qualité, en tout cas.
Et il est bien fait, en plus, c'est ça le pire, hein. C'est quand il joue t'as pas beaucoup de failles, en fait.
Il y a pas de mystère, hein, si c'est un succès.
Et surtout tu joues avec tes potes et tes machins, et ça c'est la teuf. Voilà, bah, voilà, c'était pour le win. Bravo Epic, hein, encore une fois.
Ouais, bravo les mecs.
Et Apex, pendant ce temps, bah, je sais pas ce que ça devient, mais.
Bah, ils essayent.
Sur des années-lumière, quand même. Hein,
ouais.
Je vais pas dire. Ouais.
PUBG, ça a l'air d'aller.
Ouais, mais c'est pas du tout le même engouement, quoi. Enfin, c'est. Bref. Voilà, c'était pour le win, donc Fortnite et sa communication de malade mental. Et maintenant, on va passer au fail, n'est-ce pas, monsieur Tigre?
Ah ouais, et là, c'est pas un truc de jeune, pour le coup. C'est...
Et ben non, c'est l'Atari VCS. Ou plutôt l'Atari VCS.
L'Atari VCS. L'Atari VCS.
Qu'est-ce qui se passe avec l'Atari
absolument,
VCS
qui est donc,
c'est un vrai bordel.
Qui est donc une nouvelle console qui surfe sur cette vague des consoles rétro qu'on remet au goût du jour, comme la Mega Drive Mini sortie il n'y a pas longtemps et les consoles Nintendo avant elle. Sauf que l'arrivée de cette Atari VCS qui s'est appelée dans un premier temps Atari Box est plus compliquée que prévu.
Ils ont fait le design aussi, quand même. Différence par rapport à
absolument. C'est une console qui a quand même été annoncée au printemps 2017, et comme le relayait Thomas dans une news récente sur Gameblog, il y a un peu le feu à la maison pour ce projet, en tout cas, parce qu'on a appris que l'architecte principal donc de cette Atari VCS qui s'appelle Rob Wyatt a annoncé le 4 octobre qu'il démissionnait de son poste d'architecte de l'Atari VCS.
Salut.
Mais le plus préoccupant, c'est que les raisons qu'il a données pour cette démission, c'est qu'en gros il n'a pas été payé depuis 6 mois. Voilà, donc la compagnie Atari de son côté a expliqué qu'il n'y avait pas de problème, que la création de cette console se faisait avec certes quelques heures, mais que celle-ci était toujours attendue pour le printemps 2020. On rappellera quand même que c'est une console dont la création a été rendue possible grâce au financement participatif. Oui. Donc forcément, il y a de l'argent engagé.
Partie d'argent.
Voilà. Et on espère que ça ne sera pas le cas pour cette Atari VCS et qu'elle arrivera bien l'année prochaine. Mais on connaît déjà des exemples de Kickstarter qui se sont avérés être des fiascos. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si Thomas, tu as quelque chose à rajouter.
Je crois que dans les mauvaises nouvelles qui accompagnaient justement la démission de Wyatt, il y avait aussi le fait qu'il précisait à un moment donné qu'il les avait lâchés alors qu'ils en étaient à une phase un petit peu de debug et que ça signifie qu'il faut retravailler un petit peu le processus, enfin qu'il faut recommencer, retrouver des gens pour la tester, lui rentrer un petit peu dans l'art, etc. Puis d'un autre côté, il y a son entreprise, je crois qu'ils sont trois, qui n'a pas été payée depuis 6 mois, donc tout le monde comprendra que c'est quand même un petit problème.
Bon, un petit billet, puis c'est réglé.
Comme moi, quand j'ai débuté à Joypad, j'ai pas été payé pendant 6 mois, j'en ai pas fait de maladie. Vous pouvez finir la console, s'il vous plaît. Vous serez payé après sur les royalties.
Prenez-en de la graine. Non, mais on va dire qu'en termes de communication, elle enchaîne un petit peu les mauvais coups. Enfin, ouais, c'est ça.
Il y a toujours des problèmes avec Atari quand même.
Parce qu'il y avait déjà eu report parce qu'il fallait qu'elle soit plus puissante.
Depuis aussi longtemps que je me souvienne, dès que ça parle de hardware avec Atari, c'est le bazar, quoi. Je sais pas ce qui se passe chez eux, mais bon. C'est quand même pas joli.
Faudrait que Bruno Bonnel y reprenne tout ça.
Ouais, bien sûr.
En tout cas, elle est attendue pour
printemps 2020.
Ouais, pour l'instant.
Pour l'instant.
Espérons que ce soit le cas. J'ai hâte de l'avoir quand même, cette machine. Mine de rien.
Pour jouer à Pong.
Pour jouer à Pong.
Pas la payer, ouais.
Ça, je suis pas sûr. Parce que je pense qu'il faut payer les gens quand même qui font la machine. Donc ça va être chaud. Et si, messieurs, dames, on parlait tout de suite d'il y a 30 ans sur Gameblog, qu'en pensez-vous? Il y a 25 millions d'années sur Gameblog.
Ouais.
Ou 10 ans, allez.
10 ans, ok.
Ouais.
Attends, je change mes fiches du coup, parce que c'est pas la même actu.
C'est vrai.
On va commencer par une news de Raon, une longue news où Raon nous détaillait un petit peu le problème des développeurs des jeux mini sur PSP. Alors, on vous parlait la semaine dernière du lancement il y a 10 ans de la PSP Go et des aventures de Mimix ou le soleil de Marseille qui essayait de la trouver dans les boutiques de la Canebière. Non, en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous rappelez des jeux mini sur PSP qui étaient des petits logiciels qui coûtaient pas grand chose, quelques euros ou quelques dollars, et c'était généralement en fait des portages plutôt venus du mobile, en tout cas des jeux qui étaient développés avec peu de moyens et qui coûtaient assez peu cher. Et en fait, Raon relayait la parole. Oui, exactement, c'était même pas fait exprès en l'occurrence. Raon relayait la parole en fait d'un développeur, Sergei Gourski, qui expliquait comment ça se passait pour justement publier son jeu sur la PSP, donc la console de Sony, et pour espérer sortir sur une machine, il fallait avoir la validation de l'ESRB, une classification donc comme le PEGI en France. Le problème, c'est que pour ça, il fallait investir, acheter des kits de développement, passer par les procédures de l'ESRB, et du coup, tout ça faisait que le jeu qui coûtait pas grand-chose sur mobile se retrouvait facturé un petit peu plus cher sur PSP, et que c'était en fait un problème, et ça illustrait l'article de Raon, en fait, expliquait toutes les différences qui existaient pour un éditeur, voire un développeur indépendant, de passer justement d'un jeu sur mobile à un jeu console. Et ça nous expliquait un petit peu les procédures qui peuvent exister entre ces différentes étapes. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps en tête. On ne le sait pas forcément, mais même les petits éditeurs indépendants, quand ils veulent sortir sur Switch, sur PS4, sur Xbox One, il faut à chaque fois qu'ils passent par des systèmes de validation aussi différents en fonction des constructeurs. Et ça peut être toute une aventure quand on n'a pas un éditeur derrière pour faciliter un petit peu l'opération. Donc voilà, c'était un article qui est très intéressant, je trouve, parce que ça mettait en lumière quelque chose dont on parle assez rarement sur les coulisses du développement de tout petit jeu. Et je mettais ça en parallèle puisque on a eu le lancement de l'Apple Arcade il n'y a pas très longtemps, qui permet là pour le coup de jouer pour 5$ par mois, si je dis pas de bêtises, 5€ à tout un tas de jeux,
je crois,
directement sur notamment sa télé. Donc c'était un joli retour en arrière d'il y a 10 ans.
Tout à fait. Et le deuxième jeu maintenant dont tu vas parler, c'est World of Goo.
Et oui, World of Goo, dont vous vous souvenez forcément, parce qu'il avait fait sensation au moment où il était sorti. Et en octobre 2019, eh ben, on fêtait son premier anniversaire. Et du coup, Angel relayait une initiative en fait, des développeurs qui était assez inédite et que je trouve assez sympathique. C'est que les développeurs de World of Goo proposaient le jeu au prix que vous vouliez. Vous pouviez télécharger en fait, le jeu, comme il le disait, pour 1$, 10 ou 1 milliard. C'est vous qui voyez. Et c'était bah, une façon aussi
l'ancêtre
de...
L'ancêtre d'un bundle un petit peu.
Complètement, ouais. Appliqué à un jeu, et un jeu qui pour le coup avait connu un succès pas commercial, mais en tout cas un succès critique, puisque si vous vous rappelez à l'époque, quand le jeu est sorti, les développeurs avaient très rapidement fait un calcul, en tout cas sur les versions PC, pour arriver à la conclusion que globalement 90% des joueurs qui avaient téléchargé World of Goo sur PC l'avaient fait de manière complètement illégale et donc n'avaient pas versé un copec pour y jouer, et alors que tout le monde trouvait que c'était un jeu de construction assez bien fichu. Moi y compris, et voilà, là c'était l'anniversaire du jeu, et pour le coup ils essayaient de rebraquer un petit coup de projecteur en laissant les joueurs décider du montant qu'ils allaient mettre pour le télécharger, donc c'était une initiative que je trouve sympathique.
Oui, et comme le dit l'article d'ailleurs, c'est vrai que l'album de Radiohead In Rainbow avait exactement eu le même type d'initiative à l'époque. Et ça je l'avais oublié.
Sur le net, oui, je crois que c'était sorti directement sur
Absolument.
Leur site.
Et tu payais ce que tu voulais.
On devrait relire tous les jours des news d'il y a 10 ans en fait.
Exactement. Qui l'a écrite celle-ci ?
Angel.
C'est Angel. Ah bah voilà, c'est pour ça.
Tu crois ?
Ah ouais.
Avec son casque militaire.
Tu veux dire que c'est pour ça qu'il cite Radiohead ?
Bah oui, évidemment.
Et la troisième info, news d'il y a 10 ans, c'était alors, par rapport au Béatle.
Ouais, et alors tu me demandais pourquoi. Alors d'abord parce qu'elle est de toi, mon cher Traz, et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une de tes news dans il y a 10 ans sur Gameblog, et que ça nous manquait un peu.
C'est vrai.
Ça va nous coûter la peau des miches.
Voilà. Tout de suite on reconnaît le style inimitable de son auteur.
C'est vrai.
Et pourquoi j'ai décidé de vous reparler de ça, parce
je sais pas.
En retombant sur cette news donc, qui nous parlait de l'arrivée de 3 albums des Beatles en DLC sur Rock Band, donc c'était Abbey Road, Sgt Pepper's et Rubber Soul qui arrivaient donc en téléchargement à l'unité, et ça m'a rappelé un truc. En fait je suis allé regarder sur internet et le temps fait que les licences s'envolent et change de main, et en fait aujourd'hui si vous voulez télécharger les albums des Beatles en question qui sortaient il y a 10 ans sur Rock Band, et ben vous pouvez vous gratter le derrière puisque la licence qui liait Harmonix aux Beatles, enfin en tout cas à la maison d'édition des Beatles, n'est plus, et du coup en mai 2016 en fait tous les albums ont été retirés, ce qui fait que comme une certaine démo signée Kojima sur PS4, si jamais vous avez téléchargé à l'époque ces morceaux, voilà, c'est un petit peu collector, puisque aujourd'hui, licence oblige, on ne peut plus les trouver sur Rock Band, et c'est quand même bien dommage, parce que ce sont, au moins pour deux d'entre eux, d'excellents albums, peut-être marquants, de toute l'histoire de la musique.
Tout à fait.
Voilà.
Ben, merci beaucoup Thomas pour ce revival antique.
Moralité, téléchargez pendant qu'il est encore temps.
Exactement, car la fin du monde est proche, les amis. Et si on passait au thème number one, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, ouais, moi je suis d'accord.
Ouais, t'es d'accord ? Mm-hmm. T'es d'accord aussi toi ?
Bah par esprit de contradiction, j'ai plutôt envie de te dire non, mais...
D'accord, ok. Bon, bah, dans ce cas-là,
mais comme tout le monde se range de ton côté, je vais m'écraser.
D'accord.
En grand démocrate.
Justement, on va parler de Blizzard et le shitstorm autour de Blizzard depuis quelques temps. Alors, est-ce que quelqu'un peut me résumer un petit peu la situation ?
Oh, bah, c'est très simple. C'est très 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 simple. Il y a une dizaine de jours,
exact.
Un joueur d'Hearthstone qui est plutôt réputé et plutôt bon, qui se fait surnommer Blitzchung. Je ne ferai pas l'offense de vouloir prononcer son nom, qui est assez compliqué.
Mais non, c'est pas compliqué.
Et donc, ce jeune garçon, qui est hongkongais, a eu la bonne idée, parce que c'est tout à fait normal de soutenir les initiatives des manifestations qui ont lieu à Hong Kong depuis des mois et qui appellent à la libération de Hong Kong par rapport à la Chine. Et malheureusement, le geste n'est pas passé inaperçu du côté de chez Blizzard, et Blizzard étant en partie financé, on va dire, par Tencent, qui est une compagnie chinoise, Blizzard a eu une réaction un peu, on va dire... disproportionné par rapport à cet élan de solidarité par rapport au peuple hongkongais. Il a décidé de bannir le joueur de Hearthstone, Blitzchung,
pendant un an
et de lui retirer ses dotations récentes. qui n'était pas une petite somme qui plus est. Et bah, ça n'a pas plu du tout, en fait. C'est le genre de choses qu'il aurait peut-être fallu éviter de la part de l'entreprise d'Irvine.
Ça alors
Puisque dans la foulée de son bannissement, il y a eu des vagues d'indignation qui ont commencé à se soulever un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Et ça a commencé petit, et puis petit à petit, on est monté à un hashtag qui allait à l'encontre de Blizzard.
Il y a même des gens de chez Blizzard qui ont manifesté et qui ont soutenu BlizzChunk, justement.
Exactement. Le mercredi, il y a des employés qui sont une trentaine à peu près, un maximum, qui sont réunis devant la statue de l'Orc dans le QG de Blizzard avec des parapluies pour certains, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un symbole révolutionnaire à Hong Kong par rapport à une autre manif qui elle avait lieu en 2014.
Et puis ça évite de se faire reconnaître aussi par les caméras de surveillance.
Oui, mais je pense que s'ils sont allés déjà sur la place, ils étaient déjà grillés de toute manière, même en sortant de leur bureau.
Il y a 100 000 caméras en 4K.
À mon avis, il y a des caméras dans la statue de l'Orc aussi.
J'en profite pour. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça sur Internet. À Hong Kong, ils ont donc plein de techniques pour ne pas être repérés par les caméras. Par exemple, ils pointent les forces de l'ordre avec des lasers, ce genre de choses. Et j'ai même vu passer, ils ont développé un kit de. Un fake facial, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Ça se met en fait sur le visage et tu as une petite caméra qui en temps réel projette un autre visage sur le tien.
C'est
Ghost in the Shell. Enfin, ouais. ils ont des techniques très très avancées c'est pour le.
Ah, moi je connaissais la laque sur les plaques d'immatriculation, mais ça, j'avoue que.
Ouais, ou les CD sur les arbres pour les cerises, tu sais, pour
ouais,
les cerises.
Aussi, ouais, ça se fait encore. J'avoue que. Épatant. Bref, des employés qui se révoltent aussi, entre guillemets, qui, pour certains, vont tout simplement couvrir des devises qui sont carrément sur le parvis de l'entreprise, à savoir penser globalement et toutes les voix comptent.
Chaque voix compte.
Voilà, donc on comprend bien la symbolique là-dessus. Et ben, Blizzard, ils ont encore pris derrière. Epic, par la voix de Tim Sweeney, s'est exprimé pour dire nous, on s'en fout.
Ils peuvent dire
ce que vous voulez.
Alors que eux, ils sont justement détenus par Tencent à 40%.
À 40% par Tencent. Donc voilà, eux, ils s'en tapent.
Après, le truc, comme tu le disais, enfin, tu parlais de la NBA, c'est ce qui est très compliqué pour Blizzard aussi en ce moment, c'est que ces questions de. Du rapport avec le gouvernement chinois, parce que c'est ça le problème de l'histoire de la NBA dont tu parlais. C'est un joueur qui a
genre des Houston Rockets, hein,
voilà,
je me souviens
plus
de son nom par contre,
qui a exprimé sa pensée par rapport à Hong Kong, par rapport à la Chine, etc.
Alors qu'il y avait un tournoi de NBA
de
Hong Kong ou en Chine?
Non, en Chine, ouais,
en Chine
tout à fait. Ça a pas changé l'intérêt pour le public. Hein. Les stades étaient remplis et surtout, ce qui était plutôt agréable à constater à l'occasion de cette histoire de la NBA, c'est que le représentant de la NBA a exprimé que il exprima toujours le soutien à les libertés d'expression
des joueurs,
de ces joueurs. Et ce qui est aussi réjouissant dans cette histoire, c'est que évidemment l'attitude de Blizzard est détestable parce que ça s'apparente à de la censure, mais en plus il y a double punition parce qu'on enlève les dotations à cette personne sans parler du rapport hypocrite.
Plus son boulot,
mais
quoi.
C'est réjouissant de voir en effet qu'il y a eu un soulèvement des streamers, des réseaux
des abonnements,
sociaux, quoi.
Etc. Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais bah ça justement, on va en venir peut-être que Thomas.
Juste avant que tu reprennes la chronologie, entre temps, ce qu'on avait oublié de préciser, et c'est encore un très mauvais move de la part de Blizzard, c'est que la polémique commence à prendre et des joueurs décident de supprimer leur compte directement.
J'allais y venir.
Ah pardon, bah autant pour moi.
J'allais y venir, en fait, des joueurs effectivement voulaient supprimer leur compte parce qu'il y avait un appel au boycott, donc le hashtag boycott Blizzard évidemment, et donc des joueurs ont voulu essayer de supprimer leur compte.
Mais
et en fait, il y a eu un laps de temps où c'était pas possible, en fait, assez bizarrement.
Ils ont fait en sorte que techniquement ça soit pas possible.
Alors,
justement.
Non, alors, on va peut-être pas non plus aller jusque là.
Franchement.
Mais c'est vrai qu'on peut croire au complot parce que il y a eu plusieurs.
C'est pas un complot, c'est que tu peux le faire. Hein,
plusieurs personnes ont essayé de supprimer leur compte. Première étape, deuxième étape, puis là on dit troisième étape, et puis quatrième étape, et impossible que ça marche pendant 2-3 heures environ.
Ça a été le cas aussi pour les changements de nom. Ah bon, oui, j'avais vu ça.
En parce qu'ils voulaient changer de nom en mettant des noms protestataires.
Voilà, sur les comptes Blizzard, tu peux changer une fois ton pseudo. Certains avaient commencé à changer leur pseudo en FreeHK, je crois, hashtag FreeHK. Et après quelques heures, c'était plus possible d'utiliser ce terme-là. Donc, ça donne encore l'eau au moulin du fait que, évidemment, le fait de supprimer son compte, c'est quelque chose qui a été bridé par Blizzard.
C'est possible. Après, c'est possible. Des problèmes de serveur parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dirige en même temps
ça peut arriver aussi,
sur le site pour essayer de supprimer son compte. C'est aussi une possibilité. Chose qu'on n'a pas dit, c'est que ça s'est retourné contre Blizzard aussi, puisque Overwatch, maintenant, le personnage de Mei est devenu carrément une égérie de la protestation contre le gouvernement chinois par les Hongkongais, ce qui est quand même bien retourné, j'ai envie de dire. Et donc, comme je le disais, Epic s'en fout. Malgré tout ça, Blizzard a quand même cédé, il y a très peu de temps, il y a une journée à peu près, en réduisant enfin la durée de l'exclusion de Blitzchung à 6 mois au lieu de 1 an. Et que il y avait une déclaration supplémentaire de Blizzard au passage qui disait que la déclaration pouvait diviser les joueurs. C'était ça en fait qui les dérangeait plus qu'autre chose, sans jamais évidemment aborder la problématique de Tencent ou du fait que Overwatch est très joué en Chine et d'autres jeux Blizzard sont très joués en Chine et que le public pourrait moins bien prendre
c'est surtout
la
ça.
Chose.
Parce bah, qu'au c'est au-delà de Tencent, c'est évidemment une réaction purement commerciale. La Chine, c'est un marché énorme. Des énormes sociétés telles qu'Activision Blizzard ne peuvent pas se fâcher avec le gouvernement chinois. Et il faut savoir que par exemple pour un jeu que tu avais testé, que tu avais beaucoup aimé, qui s'appelle Devotion, à l'intérieur de jeu, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en gros il y avait un élément qui était caché dans le jeu qui se moquait ouvertement du président chinois Xi Jinping en le comparant à Winnie l'ourson.
Voilà.
C'est un mème et une moquerie récurrente chez les opposants au gouvernement chinois. Et après avoir reçu des torrents de notes négatives, de commentaires négatifs sur Steam, le développeur du jeu a enlevé le jeu, mais pas de sa propre volonté. C'est Steam qui a demandé, qui a encouragé le studio à enlever le jeu, tout simplement, encore une fois, pour des intérêts financiers, parce qu'en Chine comme ailleurs, il y a un droit de licence pour les différentes entreprises qui peuvent faire du business là-bas.
C'est, comme pour Apple,
c'est impossible pour des sociétés comme Activision Blizzard ou même Steam de se voir refuser l'accès au marché commercial d'un milliard potentiel de consommateurs chinois. Quoi.
Oui, surtout que on est à plusieurs centaines de millions de joueurs faciles.
Exactement.
En Chine. Bon, bref, il restait un dernier événement qui, on va dire, pour mettre le coup de pompe dans la tronche de Blizzard qui gisait au sol tranquillement, c'est que Blizzard a annulé un événement qui devait se tenir à New York ce 16 octobre. C'était le lancement d'Overwatch. À mon avis,
sur Switch.
Chez Blizzard, on n'est pas serein parce que l'événement a été annulé la veille quand même du lancement.
Bah, soit ils ont reçu des menaces, soit ils ont des trucs comme ça, je pense.
Ouais, ou alors ils ont peur.
Ou ils ont vu arriver le Xème shitstorm.
Ils ont peur que
Je pense qu'il y aura une grosse manif devant. Ils ont dit oulala.
Que dans les 150 premiers joueurs qui vont venir et qui ont l'occasion de parler avec les doubleurs, etc., d'Overwatch, il y en ait qui soient là.
Tout ça avec des panneaux, des t-shirts, des machins.
Se déguiser en Winnie l'ourson ou des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et donc, on a envie de se dire que Blizzard, depuis l'annonce de Diablo Immortal sur portable, c'est pas trop ça en ce moment. Ils sont un peu devenus les Electronic Arts d'il y a 2 ans. Et que la BlizzCon, qui va commencer le 1er novembre prochain, risque d'être un peu folklore.
Un peu agité, on va dire.
Très folklore, ne serait-ce que par rapport à ça. Et puis peut-être par rapport à d'autres choses que les joueurs, eux, prennent à cœur, comme je le disais avec Diablo Immortal, par exemple.
C'est d'autant plus dommageable pour eux que apparemment c'est une édition assez mastoc de la BlizzCon qui va se tenir cette année. Là pour le coup, on sait que tout le monde va parler de ce scandale autour de
Tu sais ce qui est facile avec Blizzard, c'est que s'ils veulent,
si y a un mec Diablo 4.
Ouais, exactement, il y a un mec qui va lever le doigt. Et à propos de Hong Kong, Diablo 4. Ah OK, tout va bien, merci.
OK, allez, j'enlève mon t-shirt.
Voilà. Ou StarCraft Ghost, vous vous rappelez? Bah tiens, hop, voilà, en fait, il sort. voilà, tout est prêt.
Ils ont fait en deux mois là en fait le jeu. Et...
Ouais. Bah, en tout cas, ça permet aussi de rappeler que derrière que les discours, les slogans, comme ceux qu'on peut trouver devant le siège de Blizzard, qui ont été cachés par certains employés, faut pas oublier que le but des dirigeants de ces grandes sociétés, c'est d'abord le profit. Donc ça, malheureusement, enfin, on nous le rappelle quoi.
C'est comme Trace quand il arrive le matin, il dit ouais, moi je vous kiffe les mecs et tout. Puis après, le reste de la journée, là, bah, du profit,
toujours,
allez.
Bah ouais.
Et Thomas, vas-y, crache, crache.
Ah, tu limites tellement bien, putain, j'y crois là.
C'est exactement moi ça.
Tu ouais, tout à fait.
Je pense tellement à la maille, si vous saviez. Ouais. Je vous ai déjà montré mon compte en banque ou pas?
Oui. Oui, je sais.
Bon, en tout cas, c'est ça la vie hein, des gros éditeurs. Voilà. Gros éditeurs, grosse responsabilité.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a eu deux victimes, on va dire, collatérales
les commentateurs,
de cette affaire. Les commentateurs qu'on voyait justement à l'écran au moment où Blitzchung, justement, bah, portait un masque, déjà pour faire référence aux manifestants de Hong Kong. Les deux commentateurs, en fait, qui l'ont, entre guillemets, poussé à dire bah vas-y, t'as un truc à dire, balance-le. Eux aussi ont été au début. Pu éjecter, banni pour je crois un an de.
Ouais, c'est ça. Au début c'était un an pour eux, mais après ils ont été.
De commenter les compétitions justement de Hearthstone. Et finalement, quand la peine de Blitzchung a été divisée par deux, bah, la peine des commentateurs a elle aussi été divisée par deux. Sauf que bon, je ne sais pas ce qui les attend après. Est-ce que Blizzard va les reprendre? Est-ce qu'ils vont se faire récupérer par quelqu'un d'autre? En tout cas, voilà, c'est malheureusement, on les voit sur la vidéo que Poufy justement vous montrait. Il y a un tout petit moment de gêne juste après parce qu'ils doivent se rendre compte ou alors quelqu'un est en train de leur dire que.
Ils ont fait une connerie.
Les gars, ça pue. Mmh. La preuve, c'est que très rapidement derrière, ils ont envoyé une bonne coupure pub histoire de sans doute leur passer un savon.
Oh, c'est pas grave, ils sont sponsorisés par Mitsubishi, donc ça va.
Ah, bah donc tout va bien alors.
C'est japonais.
Okay.
Ils s'en foutent. Hein. D'ailleurs, avec les petites voitures devant, là, ça fait bizarre, mais bon. Ça fait bizarre même.
Ouais.
Bon. Voilà, bah, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce truc. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur.
Bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a du débat politique qui arrive à travers le jeu vidéo quelque part.
Est-ce que le jeu vidéo devient un peu beaucoup politique maintenant?
Bah, c'est surtout que ça devrait même pas avoir. On devrait même pas se poser de questions, tout simplement. Alors, le garçon, s'il a envie de soutenir. De soutenir Hong Kong,
c'est comme l'équipe de foot de Turquie qui fait le salut militaire après le match France-Turquie. La France a quand même demandé une sanction pour ça parce que ils disent que ça a rien à faire sur le terrain de jeu, sur un terrain de foot.
Bah à ce moment-là, on a dû les célébrations aussi, tu vois. C'est, enfin, je veux dire, il y a un truc.
Bah non,
vraiment, chacun
les célébrations, tu peux célébrer sans faire salut militaire ou salut nazi ou quoi que ce soit. Tu
ah
vois,
nazi,
donc,
oui, là.
Ouais, mais là, c'est pas comparable.
C'est encore
parce
autre chose.
Oui, mais le salut militaire, c'est considéré comme un acte politique quelque part. Il le savait très bien, il l'avait annoncé avant qu'il le ferait sûrement.
Moi, ce qui me pose problème surtout, c'est le fait que la censure vienne de Blizzard. C'est-à-dire que si ce jeune homme, parce que là, on parle des militants hongkongais, mais imaginons que ça soit un mec pro-Daesh. Le seul problème de censure devrait être du judiciaire, en fait. C'est pas Blizzard
d'imposer.
Voilà, c'est
ça.
La limite, elle est pénale. Voilà. Si cette personne faisait quelque chose en dehors des lois, bah là, oui, elle aurait dû faire face au tribunal,
oui, mais
etc.
Est-ce qu'il n'y a pas une charte interne qui dit que voilà, les streamers, les machins, les ne font pas de politique, ne parlent pas de politique, ils parlent que du jeu.
C'était
et c'est
leur
tout,
défense à un moment donné, justement.
Après, je ne sais pas si c'est vrai.
Le complément dont tu parlais tout à l'heure, qui était de dire s'il avait exprimer des opinions justement pro-gouvernementales chinoises, la sanction aurait de toute façon été la même puisque c'était l'expression d'une attitude politique. C'était la réponse officielle de Blizzard.
Ouais, parce que ça...
Justification qui est arrivée X jours après le scandale en question.
J'ai essayé de chercher un petit peu ce qu'ils avaient
dit. C'est une réflexion intéressante, mais c'est vrai qu'ils se posent toujours cette question aussi. On l'a vu avec Ubisoft qui parlait de jeux qui ne sont pas politiques, pas à message politique. On le sait que c'est hypocrite, c'est un message hypocrite. Évidemment, les jeux, si on considère que ce sont des œuvres de l'esprit au même titre
ça
que les films, films ou les livres, il y a évidemment un message politique.
Bah oui, tu vas sur
quand on joue à Call of Duty, on joue pas au même jeu que Flower, et il y a un message politique dans les deux. Bref, c'est bien, ça grandit, il y aura encore plein de choses à dire, à débattre au fil des années, en espérant
alors que
ça aille dans le bon sens.
Alors que Fortnite, t'as pas de message politique.
Mais y a rien.
Tu tiens dans le tas, tu construis des trucs et voilà, c'est fini.
Il y a peut-être un message. Hein,
si, c'est un peu zadiste. Tu conduis des petites maisons.
Construisez et défendez.
Voilà. Révolution.
Bah ouais, voilà.
Voilà, bah, c'était pour le thème 1. On a fait un petit peu le tour de Blizzard. Et on verra dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, comment tout cela va se goupiller, s'il y aura d'autres rebondissements ou pas du tout.
Et quelles seront les révélations de la BlizzCon aussi?
Exactement. Et ils vont peut-être annuler la BlizzCon en fait.
Imagine.
T'imagines? Tous ceux qui ont acheté leurs billets et tout.
Et elle se tient en Chine. Avec Xi Jinping qui présente.
Fantastique.
Ouais. Ok, Maxime Gérassi.
Peut-être qu'il va annoncer Dino Crisis. Hein. Je sais pas.
T'imagines ?
Ouais.
Bah, ça serait ouf. Hein. Pas mal. Et si on passait au thème numéro 2 ? Et le thème numéro 2, c'est les tests qu'on a pu faire cette semaine, n'est-ce pas, qui sont sortis depuis le dernier podcast, dernière émission. Et on commence avec Concrete Genie sur PS4, PSVR, Tiger. C'est toi qui l'as testé.
Plus PS4 que
oui,
PSVR,
c'est sûr.
En l'occurrence.
PSVR, c'est des petits trucs en plus.
Ouais, alors Concrete Genie.
T'en as pas pensé que du bien, visiblement.
Non. À ma grande déception.
Alors, je trouve ça super beau, moi.
Mais oui, c'est trop mignon.
Donc, Concrete Genie, c'est le nouveau jeu du studio Pixel Opus que vous connaissez peut-être pour
Earthwind and Fire. Ouais.
Qui moi était un jeu qui m'avait laissé plutôt froid, faut bien le dire, mais qui pour certains était un jeu indépendant plutôt poétique et agréable. Mais je partais, ceci dit, je partais en jouant à Concrete Genie sans a priori, d'autant plus que comme Plume et toi-même Trace l'avait souligné, la direction artistique est plutôt agréable. En tout cas, elle a de la personnalité, elle est singulière et ça c'est déjà une bonne chose.
En plus, il a un bonnet sur la tête, le gamin.
Pour poser un peu le contexte de ce jeu, donc on incarne un petit garçon qui s'appelle H, je crois.
C'est ça.
Et qui vit dans un ancien port de pêcheurs qui est un peu laissé à l'abandon, qui est un lieu un peu morose. Et H, lui, il arrive à s'évader de ce lieu glauque en dessinant sur son carnet. Il dessine plein de petits monstres assez rigolos. Et ça lui permet de s'échapper aussi parce qu'il ne peut pas vraiment se déplacer librement dans ce lieu abandonné parce qu'il est constamment embêté par une bande de brutes qui, dès le début du jeu, en fait, lui arrache son carnet. Et les pages volent un peu partout et... En poursuivant ces feuilles volantes, Ash va faire la rencontre en fait d'un des monstres qu'il avait inventé sur son carnet, qui en fait va apparaître sur un mur.
Qui s'est marié,
et ça va être le gimmick de Concrete Genie à travers ce pinceau géant qu'il va récupérer aussi très tôt dans l'aventure. C'est donc de donner vie aux différents monstres pour progresser dans le jeu. Alors, le pitch et même les visuels que vous voyez en ce moment font envie. C'est évidemment une idée plutôt poétique, plutôt amusante. Les monstres sont plutôt très rigolos aussi. Mais après, en jeu, c'est une autre histoire. Alors déjà, ce qui est assez surprenant pour un jeu qui sort en 2019, c'est qu'on nous propose de base de jouer avec la détection de mouvement de la DualShock 4. Alors, il n'y a pas vraiment de problème technique à l'utilisation, mais c'est vraiment pas la manière optimale à mon sens d'y jouer. Très rapidement, moi je suis allé dans les options pour me servir plutôt du stick droit parce que évidemment avec cette détection de mouvement, vous bougez votre pinceau pour peindre les murs et pour faire naître les différentes créatures. Donc évidemment, vu que le jeu de base met en avant cette fonction de détection de mouvement et qu'au bout de 5 minutes bon, on passe à autre chose, c'est un petit peu décevant, d'autant plus que Trace parlait de la VR, mais la VR c'est vraiment un mode dédié dans lequel on va dessiner, on va peindre, mais bon, ça n'a pas un intérêt fou, d'autant plus
ça dure une demi-heure,
voilà, c'est ça,
ça mérite d'exister déjà, c'est bien.
Oui, mais c'est justement ça le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de logiciels en réalité virtuelle qui permettent de peindre, qui permettent de faire ce genre de choses de manière bien plus profonde et
mignon
et bien plus amusante. Bah oui, mais je sais, moi aussi je suis
moi aussi, regarde, tu sais, c'est dans une galerie,
tu sais, c'est le genre de, c'est vraiment ce genre de test que t'écris un peu à contre-cœur parce que j'avais envie de l'aimer, évidemment.
Ça quand rappelle le Title Goose Game, ça, ça y est,
quand il y a une proposition différente plutôt charmante où l'action, la violence n'est pas au centre du jeu, d'autant plus que il y a évidemment des passages dont la thématique s'intéresse comment dire
à la Chine, non,
aux enfances difficiles, parce qu'en fait ces petites brutes, on comprend évidemment que c'est des enfants qui sont pas forcément très bien dans leur basket et très bien à la maison, donc c'est des thématiques intéressantes, mais l'aspect ludique, purement ludique, est vraiment très très moyen. C'est-à-dire
qu'on s'ennuie un peu trop.
On s'ennuie beaucoup. La progression est vraiment très très convenue. Ça va vraiment être bon. Alors je ne peux pas accéder à cette partie du village de pêcheurs, donc il va falloir que j'active un interrupteur. Pour ça, il va falloir que je crée un monstre. L'interaction avec les monstres est vraiment très limitée parce qu'à part leur faire coucou et les appeler pour venir nous aider, il n'y a rien de plus. C'est pas très clair en plus des fois, on comprend pas vraiment ce qu'il faut faire, donc du coup bah on appelle les monstres un peu qui va qu'à leurs occupations parce que pour qu'ils restent actifs il faut aller les voir régulièrement et leur peindre des petits motifs comme on le voit à l'écran, différents types de motifs, ceux qu'ils vont aimer ou pas. Voilà, pour des petites énigmes qui vraiment sont très très faibles. Moi, en fait, ce jeu, par sa proposition de détection de mouvement, mais aussi par son déroulé vraiment très convenu, très peu inspiré, etc., m'a vraiment rappelé en fait les premières propositions qu'on pouvait avoir au tout début de la PS4, quand justement on essayait de démontrer que cette idée de jouer avec le mouvement de la manette, c'était
révolutionnaire. Les jeux où tu casses des gimmicks aux chausse-pieds parce qu'il faut que ça prouve justement les spécificités techniques.
Exactement.
De la console.
Exactement, et tu me permets de revenir là-dessus, Thomas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé face à un jeu qui finalement est dans son cœur est très creux, très convenu, sans idée, vraiment assez pénible en fait. Et malheureusement, toute cette patine arty, amusante avec ces monstres, bah, ne la sauve pas. Ce qui fait que moi, en fait, finalement, Concrete Genie, j'aurais vraiment préféré que ça soit un livre pour enfants ou un court-métrage, parce que l'univers est éminemment sympathique. Mais en tant que jeu, il y a vraiment très peu d'intérêt. Et encore une fois, je m'excuse pas pour ce que je pense, mais je suis quand même un petit peu désolé de le dire, parce que cet univers est évidemment charmant, mais malheureusement, en tant que jeu vidéo, je ne vois pas vraiment ce qu'il apporte, et je trouve qu'il ne procure pas beaucoup d'amusement ni de plaisir, malheureusement, quoi. Voilà.
D'accord.
Okay. Désolé, Traz.
Bah, non, mais bon, t'as pas été désolé, de toute façon, c'est comme ça. Chacun sa sensibilité, chacun son truc, mais...
Bah, voilà, d'autant plus que j'étais assez surpris de voir que c'est vraiment un jeu qui divise. Parmi les critiques, en particulier des critiques américaines, j'ai l'impression que les Européens, nous, on est un peu plus timorés. Alors, je sais pas si...
Un peu plus critique.
Si certains ont des copains chez Pixel Opus.
Ah, Pixel Opus,
en Californie.
Pas mal ça comme pseudo de studio.
Mais en tout cas, ouais, du côté des critiques américaines, il y a vraiment des avis dithyrambiques. Des gens qui mettent la note maximale. Aimé, hein. Ah oui, d'accord.
Ouais. Ils mettent pas de notes, mais...
Et du côté des Européens, j'ai le souvenir, par exemple, de journalistes italiens, de journalistes aussi britanniques, qui, eux, sont plutôt de mon avis, qui... Tous vantent l'aspect vraiment mignon, le visuel vraiment chatoyant. Parce que même, hein, vous voyez, à part les petits monstres, même, c'est quand même un jeu qui est développé par une petite équipe, donc même dans le moteur du jeu, c'est assez joli, ça tient la route. Mais qui, comme moi, ont trouvé la proposition assez creuse. Voilà. Donc je sais pas s'il y a une démo ou quoi, mais faites-vous peut-être un avis avant, parce que c'est vraiment très partagé.
À Paris Games Week, vous pourrez y jouer, donc après, si vous le prenez. Tout simplement. Bah écoute, merci beaucoup pour Concrete Genie, donc sur PS4, qui est déjà sorti. Et t'avais mis donc 5 sur 10, si je me souviens bien.
C'est la moyenne.
Tout à fait.
Tout juste.
Ça marche, merci beaucoup. On va passer au second jeu de Thomas. Ukulele.
Exact. Alors, Ukulele.
Et le l'air impossible.
Voilà, et le l'air impossible, parce que sinon.
Sinon, c'est pas le même jeu.
Sinon, c'est pas le même jeu.
Exactement.
Et oui, le studio.
Ils sont de retour.
Playtonic est de retour. Playtonic qui s'est fondé il y a 3 ans maintenant sur les
ruines. Sur les cendres.
sur les cendres de quelques grands game designers de chez Rare. Le Rare de la grande époque, et qui nous avait offert en 2017 Ukulele, premier du nom, qui était un projet Kickstarter au début, et qui voulait être un Banjo-Kazooie-like, en fait, ce qu'il était, hein, complètement. Et là, pour le coup. Avec The Impossible Lair, on revient à un autre style cher au cœur du studio britannique, à savoir le Donkey Kong Country-like. Puisque on quitte, on va dire entre guillemets, la 3D cette fois pour un axe 2D à l'ancienne, avec vraiment toutes les mécaniques qui font la spécificité de cette fantastique série qu'est Donkey Kong Country. Des secrets cachés un petit peu partout, des niveaux qui demandent un petit peu de skill, deux personnages qui sont complémentaires évidemment, des trajectoires à trouver comme on vient de le voir, et ça marche. Eh bien, super bien, parce que le jeu tente en fait des choses. C'est pas un simple jeu de plateforme comme on pourrait l'avoir eu avec justement Donkey Kong Country Returns et Tropical Freeze. Là, la première originalité du titre, c'est que tu commences au dernier niveau, mais direct. Le jeu en fait te balance dans le dernier niveau qui s'appelle donc The Impossible Lair, donc le repère impossible en bon françois. Et bah, t'as une chance, tu pourrais éventuellement le finir. Si t'es hyper skillé, tu peux terminer le jeu comme ça, premier try, t'es le roi du monde et puis tout va bien. Sauf que...
En fait, non.
A priori, non. Il y a quand même peu de chances que tu y arrives et en fait, tu te retrouves éjecté du repère impossible. Et là, tu te retrouves justement dans un monde où on va recroiser les figures emblématiques du premier épisode, tous les compagnons que Yuka et Layli avaient pu croiser. Et on va nous expliquer en fait que ben, ce repère impossible qui est toujours tenu par Capitol Bee, donc l'ennemi désormais récurrent de Yuka et Layli, qui est donc une espèce de grosse abeille capitaliste avec son chapeau de personnage de Monopoly, là tu sais, pour bien un peu forcer le trait, et ben en fait ça va être jouable, mais pour ça et ben, il va falloir s'armer de petites abeilles, les abeilles qui vont te protéger en fait. Les abeilles vont être tes points de vie dans le repère impossible, et du coup plus tu auras d'abeilles, plus tu auras de chances de finir le dernier niveau. Et pour récupérer des abeilles, comment on fait ? Eh ben, on finit des niveaux classiques cette fois, des niveaux en 2D, tels qu'on a l'habitude de les voir dans un Donkey Kong Country, avec du coup plein de petits secrets, des items à récupérer, des faux décors, des éléments au premier plan qui te masquent des zones secrètes. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le jeu continue d'avoir pas mal de propositions originales, puisqu'en fait, chacun des 24 niveaux qui composent le jeu possède une phase B, un espèce de twist, en fait, qui va te proposer globalement le même stage, mais avec un changement. Ça peut être un stage classique qui d'un coup se retrouve inondé et qui donc te demande de le parcourir avec des phases subaquatiques. Un niveau, par exemple, mécanique où tout était à l'arrêt et où d'un coup... Bah, tout va s'activer et donc tu vas avoir des pièges mécaniques qui vont essayer d'avoir ta peau. Des fois, ça va être le parcourir dans l'autre sens, sachant que, par exemple, un ennemi va te courser. Bref, tous les niveaux se dédoublent et ont une double lecture finalement. Sauf que pour profiter de la double lecture, il va falloir explorer un petit peu la world map, qui elle aussi en fait propose plein de trucs, puisque tu passes pas comme ça de niveau en niveau juste pour le plaisir d'eux. La world map, c'est un jeu dans le jeu, c'est un espèce de jeu d'aventure et d'exploration dans lequel tu vas justement rencontrer les personnages de l'univers de Yooka-Laylee, qui vont tous te demander de les aider à faire un truc, d'aller récupérer un item ou de retrouver un bouton pour activer leur machine. Et en fait, c'est cette exploration qui va te permettre d'interagir avec les niveaux qui sont proposés sous forme de livres et qui justement vont te permettre de choisir entre la face A ou la face B. Donc il y a toutes ces mécaniques en fait qui s'articulent super bien les unes avec les autres et qui font que tu t'ennuies absolument jamais. Parce que tu vas terminer un stage, ça va t'ouvrir justement une porte sur la world map, tu vas découvrir un nouveau pote ou un PNJ qui va te demander quelque chose, du coup tu vas aller explorer, tu vas ouvrir un bout de la map, tu vas te rendre compte que tu peux activer tel ou tel truc, parce que tu as en plus des raccourcis entre les différentes zones, et il y a vraiment tout le temps des trucs à faire. On s'ennuie absolument jamais, il y a presque justement trop de choses. Enfin, si t'es complétiste, il y a énormément de trucs à faire dès que tu finis un stage de Yooka-Laylee. Et à côté de ça, on a des niveaux qui sont rejouables, puisque je le disais, il y a des collectibles à trouver à l'intérieur, collectibles qui vont te permettre de progresser sur la world map, parce qu'il y a quand même des péages avec un serpent qu'on retrouve, je crois que c'est Trouser, qu'on retrouve du premier épisode, qui va te demander à chaque fois un peu de thune pour passer à une nouvelle zone de la map. Et au milieu de tout ça, eh ben, y a tout un tas de bonus à la con qu'on peut récupérer, notamment en explorant justement les maps. Il y a plein de toniques en fait, qui sont des liquides que tu vas trouver, que tu vas ensuite débloquer en achetant justement, enfin en claquant des plumes qui sont les pièces en fait que tu récupères dans les niveaux et qui vont ou te booster, te permettre de par exemple ralentir le temps ou prendre un dégât en plus. Et il y en a énormément qui se basent sur des filtres en fait visuels qui vont transformer l'aspect du jeu, filtre Game Boy, filtre rétro, filtre noir et blanc.
Et ça change quoi ça?
Bah c'est juste visuel.
D'accord. Okay.
C'est...
Ah, tu te mets en handicap quand même.
C'est purement visuel et tu te mets en handicap parce que du coup, en termes de lisibilité, c'est quand même pas la même soupe.
Sur le truc Game Boy là, tu vois pas grand chose.
Des zones qui pouvaient être cachées et peut-être un petit peu visibles en couleur vont l'être un petit peu moins quand même avec les filtres. Et à chaque fois que vous en utilisez un, vous avez un multiplicateur en fait qui va.
C'est ça, d'accord. Donc c'est ça en fait le truc.
Influer sur le nombre de plumes que tu vas pouvoir récupérer dans le niveau. Si vous prenez des toniques un peu craquées qui vont vous permettre de rouler sur le jeu, et bah vous allez récolter moins de plumes en parcourant un niveau, donc vous allez pouvoir vous acheter moins de trucs.
Et tu peux cumuler différentes choses visiblement. Alors, hyper pixelisé, le ratio 4 tiers pour la télé.
Tu peux cumuler des choses, tout n'est pas cumulable parce que
tu peux jouer les yeux bandés aussi.
Ouais. Alors, l'écran noir, hop là.
Tu rigoles, mais
on en est pas loin.
C'est vrai. On en est pas loin parce qu'il y a quand même.
Ah, c'est ce couleur.
Il y a quand même cette idée de proposer aussi des niveaux qui, comme dans les Donkey Kong Country Returns, sont aussi un peu taillés pour le speedrun quelque part. Et tu as du coup des trajectoires un petit peu optimales que tu peux trouver puisque Yooka-Laylee se joue un peu comme Donkey et Diddy dans le premier Donkey Kong Country Returns. Il y en a un. Quand vous avez les deux, vous pouvez justement rouler littéralement et donc aller très vite. Et avec les bons sauts, les bons rebonds sur les ennemis, on peut se faire des runs où tu touches presque pas terre et où tu boucles le niveau en très peu de temps. Sauf que dans Yooka-Laylee and the Impossible Lair, pour le coup, il n'y a pas de bonus de temps. Tu vas pas récupérer un trophée particulier si jamais tu boucles les niveaux dans un temps record. C'est juste pour le plaisir et le
prestige.
Le prestige, ouais, de constater que les niveaux ont quand même été bien designés.
Mais c'est quand même vachement bien trouvé, moi, je trouve, les différentes. Comment dire ?
Les filtres.
Différents handicaps, filtres, voilà, c'est ça, pardon.
Parce que des filtres, il y en avait aussi dans Yooka-Laylee tout court, hein. Ça, si je jamais... Non, le filtre Nintendo 64 qui donnait une allure façon Banjo-Kazooie, justement.
L'allure Limbo, là, Limbo, ça, ouais. Bien foutu. C'est con parce que bon, je pense que techniquement, ça doit pas être le truc le plus compliqué du monde pour eux, mais.
Oui, mais il y en a tellement.
Mais c'est vachement bien fait, je trouve.
Tu sens qu'ils se sont vraiment éclatés à proposer, mais tout un tas d'options. T'as des options très utiles, t'as des options qui sont complètement débiles, mais une fois de plus, eh ben, on retrouve les facéties du rare de l'époque. Rappelez-vous, dans GoldenEye, quand on traçait justement dans les niveaux, on débloquait des fois des trucs, bah, genre le bonus grosse tête. Ça sert à rien. Bah là, tu l'as aussi, le bonus grosse tête.
D'accord.
Bah c'est le jeu avec des grosses têtes. C'est tout. Ça sert à rien, mais c'est présent.
Hideo Kojima Game.
En l'occurrence, pas du tout. C'est quand même une œuvre collective. Et d'ailleurs, en parlant de collectif, un des autres super points de ce jeu, c'est sa bande son, puisqu'on retrouve notamment les compositeurs
Grant Kirkhope,
et Wise, accompagnés de deux autres dont j'ai malheureusement oublié le nom, ce qui sont pas encore aussi connus. Mais si vous appréciez les
John Williams, c'est ça, et
Chico et les Gypsies.
Ouais, ça doit être un truc comme ça. Non, les quatre sont cités dans le test, mais évidemment on pense d'abord à Kirkhope.
Alors allez lire le test, vous verrez tout.
Et Wise, parce que les compositions sont vraiment super chouettes. On retrouve toujours le même type d'instrument, le même type d'ambiance aussi, très marqué. Une caverne de glace, on va avoir toujours le même type d'instrument qui va revenir. Et en plus, on parlait des niveaux à deux faces. Bah évidemment, c'est pas exactement les mêmes orchestrations que vous optiez pour la face A ou la face B. Ça a toujours été réfléchi. Bref, il y a énormément de trucs très sympas. Et en fait, à partir du moment où vous avez exploré un petit peu le jeu, vous pouvez retenter quand vous voulez le dernier niveau. Sauf que plus vous avancerez dans le jeu, plus vous aurez d'abeilles, et donc plus vous aurez de chance d'arriver au bout. Parce que arrivé à la moitié du jeu, je me suis dit bon, ça va, j'ai trouvé 50% des abeilles, je vais peut-être l'essayer. Alors tu l'essayes quelques fois, tu te dis ouais, je suis pas mal, et là tu regardes ta progression et on te dit bah mec, t'as fait 25% du niveau. Et là tu te dis ok, d'accord, donc il va vraiment falloir bosser le truc. Il y a un gros gap de difficulté pour battre Capital B, mais du coup voilà, c'est un jeu qui se laisse jouer vraiment à son rythme et qui propose tellement de choses à faire, tellement varié.
Mais il fait penser un petit peu à Rayman le dernier, là je me souviens même plus du nom, c'est hallucinant. Alors que j'avais quasiment rincé
Rayman Origins, c'est Rayman Legends.
Ça fait penser un petit peu à ça quand même, sur le concept, par rapport au niveau, au filtre, etc.
Il y a l'idée, ouais. Parce que c'est coloré.
Ça, ouais. Et puis il faut aller vraiment, parfois au cordeau, vraiment au millimètre, pour pouvoir tout finir correctement, etc.
Alors c'est peut-être l'un des reproches justement que j'ai à formuler, c'est qu'en termes de physique et de détection de collision,
ouais, c'est too much.
C'est pas tout le temps au poil de cul. Il y a des collisions ou des animations qui sont un peu discutables par moment. Bon, c'est pas.
C'est inhérent à ce type de jeu aussi. Hein. Je pense que c'est compliqué.
Oui, alors je pense que quelques mois de boulot en plus, c'est un truc qui pouvait éventuellement se régler. Bah, surtout dans un platformer, les collisions, c'est quand même assez important.
Oui, certes.
C'est l'un des rares reproches que j'ai à lui faire. Voilà, pour le reste, si vous aimez les platformers 2D, franchement.
C'est mignon et tout, quoi. Enfin, c'est coloré.
C'est con. Enfin, je veux dire, l'humour de Yooka-Laylee, c'est le même que pour un Banjo-Kazooie. C'est-à-dire, c'est des animaux ou des objets qui parlent, qui ont des yeux. Tu vois, comme cette cloche ou comme les pages des livres que tu récupères aussi.
Ah, le chara-dizaine, comme on dit.
Et qui font des bruits bizarres, genre. Comme ça tout le temps.
Putain, tu le fais vachement bien.
Bah oui, parce que j'avais joué.
T'as fait des voix.
J'avais joué au premier et j'avais trouvé ça chouette, même si c'était, je pense, un peu trop ambitieux pour eux à l'époque de vouloir faire absolument un Banjo-Kazooie, alors que bah voilà, tu te dis tiens, freinons un petit peu, faisons quelque chose de plus simple, de plus direct. Vous mettez de la 2D, et voilà, les mecs, ils s'en sortent beaucoup mieux, visiblement.
Ouais. Là, par exemple, on voit la vidéo avec l'espèce de gros phare sur la tête, là, façon un peu ciné ou théâtre. C'est quand même vachement bien fait.
Ouais, parce que ça, c'est un stage que t'as pu faire normalement et que tu refais avec justement un projo braqué sur toi, ouais, qui change la manière. Enfin, tu l'as vu, c'est un espèce de puzzle avec des portes que tu vas emprunter, un chemin à trouver. Et bah, forcément, c'est plus compliqué de trouver ton chemin quand tu manques de lumière.
Et la version 16 bits, tiens, regarde, hop là.
Donc voilà, il y a toutes les raisons du monde de s'éclater avec Ukulele and the Impossible Lair si vous aimez les jeux de plateforme 2D.
Et ça a l'air super long, non? J'ai l'impression.
Ah bah pour le coup, ouais, oui, parce que.
Ça a l'air très très long, hein. Si enfin, si tu veux le faire à 100%, là,
si tu veux trouver toutes les abeilles, ça veut dire qu'il faut vraiment explorer la map. Il y a plein de trucs à faire. Et on parlait de l'humour. Les personnages que tu vas rencontrer, ils ont cet humour pince sans rire, très britannique, avec des blagues planquées au milieu d'un truc un peu flegmatique. Donc voilà, c'est pour le coup à mettre entre toutes les mains.
Et est-ce que Shovel Knight est encore là ou pas?
Non.
Non, pas cette fois.
Ah, il a disparu.
Ou alors je ne l'ai pas croisé, mais j'ai quand même plutôt bien rincé le jeu. Donc je pense qu'il n'y a pas de featuring cette fois-ci avec ce brave Shovel Knight.
Très classe. Parfait, parfait. Et donc on va rappeler qu'il est sorti sur PC, PS4, Xbox One, Switch.
Et voilà, Switch, c'est surtout Switch, ouais. Voilà.
Toi, tu l'as fini sur Switch, hein, ouais, c'est ça?
Je l'ai fait sur Switch, ouais. Et pour le coup, bon, graphiquement, c'est y a pas de quoi se taper le cul par terre, hein. On est quand même, ouais.
C'est... Même sur la Switch?
Ouais.
Sur l'écran en portable, je veux
si
dire.
Si vous allez voir les captures d'écran du test, elles ont toutes été réalisées sur la version Switch, et du coup, ça baffe quand même un petit peu. Voilà.
Oh, c'est pas grave.
Oui, non, mais il faut le dire.
C'est pas grave.
Il y a plus grave.
Tu joues dans ton lit et tu t'es content, quoi.
Ah bah oui, j'étais content.
Tranquille.
Donc voilà, c'est très bien. C'est indispensable si vous aimez le genre.
Et t'as mis 8 de mémoire.
Bah voilà,
c'est ça.
Très bien. Très bien, indispensable. Donc,
très bien, très bon même, je dirais.
Donc j'ai envie de dire, bah, qu'est-ce que vous attendez, hein?
Qu'est-ce que vous attendez pour l'acheter et pour l'offrir à Plume?
Bah ouais, voilà. Allez-y, faites-la. Offrez-le moi, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir.
Qui veut y jouer?
Voilà.
Parfait, bah justement Plume, puisque tu dis que t'aimes bien les jeux vidéo.
Bah écoute, parce que moi, on me file. Moi, ouais, ils testent des super jeux, moi, on me file le truc qui. Enfin, voilà.
Bah attends, The Witcher 3 contre
The Witcher 3
sur Switch.
Oui, d'accord, ok.
Bah attends,
j'ai
un super jeu
encore.
Non, bon, t'as pas mis une super note, mais.
Bah je peux
mais
pas.
Il y a des raisons.
On peut pas mettre une super note.
Que tu vas nous énoncer
pourtant,
tout de suite.
C'est pas l'envie qui manque, mais parce que ça reste The Witcher 3. Mais.
Qui est un chef-d'œuvre sorti en 2007.
2015 sur PS4, Xbox One,
vite,
PC.
J'en peux plus.
Et bah en 2015, quand il est sorti sur ces machines, c'était non seulement un des RPG les plus profonds, les mieux écrits, les plus fournis qui soient, malgré quelques défauts qu'on peut quand même souligner à droite, à gauche, ça restait un des jeux de cette génération à n'en point
ah bah,
douter.
Il y a 4 ans, c'était incroyable. Hein.
Et qui valait aussi par rapport à sa technique, parce que visuellement, ça défonçait pour un monde ouvert au moment de sa sortie. Bah, le problème de la version Switch, c'est que cette partie-là, va falloir faire une croix dessus, tout simplement. Si vous attendiez à retrouver un jeu aussi attirant visuellement que ce qu'il y a eu sur PS4, Xbox One et PC, bah, c'est cuit. Oubliez. On se retrouve avec un jeu qui est pas mal porté, hein. Fallait réussir à faire tenir le jeu. Ces deux extensions, les différents contenus des mises à jour, etc., plus je ne sais quels autres correctifs, fallait réussir à mettre tout ça sur une cartouche de 32 gigas, il fallait réussir à le faire. Bah, Saber Interactive a réussi, mais ça s'est fait au prix de sacrifices assez importants. Que vous avez pu voir notamment grâce à des comparatifs des versions PS4 et Switch notamment. Alors c'est très flou. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est extrêmement flou.
Quand c'est flou, c'est que
vous y jouez en mode portable, c'est acceptable. Voilà, c'est pas génial, mais c'est acceptable. Vous comprenez facilement que la résolution a été baissée en 540p, ce qui est pas vraiment énorme. Donc les textures qui s'affichent à retardement, la distance d'affichage qui est un petit peu, voire même beaucoup réduite, ça c'est tous les trucs sur lesquels vous allez sûrement tiquer en y jouant. Mais à côté de ça, ça reste stable quasiment tout le temps. Il y a quelques moments où vous arrivez en ville, il y a sur une cinématique où là, en revanche, on essaye d'améliorer la résolution à ce moment-là du côté de l'écran. Ces moments-là, c'est les moments où ça va ramer un petit peu. Mais le reste du temps, vous faites des combats contre 10, 12, 12 ennemis. Aucun problème, ça tient. Vous baladez, vous arrivez aux abords d'une ville. ça tient, aucun problème. Vraiment, c'est un bonheur de pouvoir refaire The Witcher 3 en mode portable, de pouvoir l'emporter partout. Alors, il y a un truc que c'est vrai, j'en ai pas parlé dans mon test, mais ça aurait été pas mal que CD Projekt et Saber imaginent une connexion cross-save avec Steam, avec le, bon, peut-être pas le PlayStation Store, mais peut-être au moins avec le Xbox Store pour essayer d'avoir la possibilité de commencer une partie sur quelque chose et se servir de sa Switch après sur le trajet pour continuer sa partie. Bon, ça n'a pas été envisagé, malheureusement. Ça fait partie des trucs qui auraient pu être imaginés. Mais à côté de ça, voilà, vous jouez en portable, vous aurez un jeu plus que correct, pas super beau, mais correct. Par contre, ne branchez jamais ce jeu sur la télé, où là, vous allez avoir envie de vous arracher les yeux. C'est-à-dire que tout ce qui est flou, tout ce qui est vraiment, ça devient agressif. Voilà, c'est agressif, c'est pas agréable du tout. En fait, vous avez même pas l'impression de jouer sur un PC en low.
En faisant des modifs et de réglages et tout ça,
c'est affreux. C'est vraiment affreux. En télé, c'est le truc à éviter absolument. Et
de toute façon, il a été fait pour portable. Hein,
exactement. Le but, de toute manière, c'est d'y jouer tranquillement dans votre pieu, dans vos chiottes, chez le médecin, dans les transports.
D'ailleurs, la bande-annonce de lancement précise bien le truc. Hein. Enfin, précise. Montre bien que jouez-y sur votre portable.
Elle précise dans les chiottes.
Ouais. Non, pas dans les chiottes, mais dans un bus, dans un avion, dehors, sur l'herbe. Tu vois jamais le mode télé dans la bande-annonce de lancement.
Parce que cette réalisation-là, donc vachement downgradée en 720p sur un écran, on va dire un écran 4K, ça passe pas du tout. Voilà, c'est impossible. Donc
qui l'a fait déjà, pardon?
Qui l'a fait? Le portage?
Le portage.
Ah, Saber Interactive.
Saber, c'est ça, d'accord.
Ouais. Et voilà, vous aurez le même jeu que celui qui sortit en 2015. Si vous n'aviez pas touché, c'est l'occasion.
Je n'ai pas touché. Hein.
Et c'est flou, mais c'est fluide.
Oui,
en gros, voilà.
Absolument.
On a c'est, même un peu mieux. Hein.
Comme je le dis dans le test, c'est une prouesse d'avoir réussi à faire ça,
bah oui,
mais
c'est ça.
C'est pas un miracle.
C'est quand même un monde ouvert et tout ça, donc...
Bah et puis c'est pas un petit jeu. Hein.
Moi à l'époque j'avais fait Skyrim sur PS3 qui était la pire des versions et je m'étais quand même bien amusé. Donc vous n'avez pas de PS4 ou de PC et que vous voulez quand même franchir le pas, tu l'as répété, The Witcher 3 c'est un jeu extraordinaire, certainement l'un des meilleurs jeux de la génération en cours encore.
Voilà. Bah d'autant plus avec, comme je le dis, avec tout le contenu. Si vous prenez tout ensemble,
ça, il y a les extensions.
C'est impossible de refuser normalement un prix comme ça.
Par contre, il faut prévoir un peu de place, du coup, tu disais 32 gigas.
32 gigas minimum.
Voilà, évidemment, il faut.
Et va falloir faire beaucoup de bus, beaucoup de métro.
Ouais, parce que là, c'est. Allez.
Et de l'avion aussi.
90 heures pour la campagne
ça
principale.
C'est une fortune, en fait.
Complétée.
Ah bah, ils annoncent 150 heures au total pour.
On pourrait dire ça parce qu'on
est pas loin avec les deux extensions.
L'extension Hearts of Stone, moi je dirais 25 heures pour la compléter.
C'est ce qu'ils mettent en avant après.
Et Blood and Wine, je dirais 40 heures pour faire le tout aussi.
Bah, ça, c'est à peu près ça, 150.
Ouais, ça fait à peu près ça. Ouais,
ils ont arrondi ça.
Bah, vous avez du temps devant vous.
Hein. Bah, jusqu'à Noël, c'est bon.
On va passer du temps sur les toilettes.
Ouais, c'est ça. Bah, ouais.
Comme ma hutte.
Et alors, t'as rien téléchargé de plus que les 32 gigas qui étaient présents sur la cartouche.
Et les voix et les doublages français, anglais,
polonais.
Bah, je crois allemand. Je crois que c'était allemand, le troisième, sont directs là. Il n'y a pas de pause qui vous dit « Ah bah attendez, il faut les télécharger sur l'eShop, blablabla. »
Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui profitent justement du « Ah, il y a du jeu sur la cartouche, mais téléchargez le reste une fois que vous l'avez inséré dans la console. » Là, c'est pas du tout le cas.
Là, j'ai mis le jeu en VO sous-titre français. Il était en français au départ. C'est passé tout seul.
C'est passé crème. Parfait.
Bah voilà.
Bah écoute, génial. T'as mis combien déjà?
J'ai mis 7.
T'as mis 7, c'est ça.
Parce que bon... Voilà, après, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas la vérité, c'est juste à votre convenance. Vous pourriez aussi lui mettre 9 si vous adorez, vous pouvez lui mettre 2 aussi parce que vous trouvez ça trop moche.
Et à votre bon cœur aussi.
Franchement, chacun fait ce qu'il veut.
Et bien, merci beaucoup pour c'est les plus grotesques qu'on ait fait cette semaine, en gros. Il y en a eu d'autres, hein. allez sur Gameblog pour voir. Ce qui vous plaît, n'est-ce pas? Tu as pu, il est en train de chercher.
Je cherche.
Il y a eu les tests de Johnny One aussi.
Oui, tout à fait. Bah, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des jeux de fou sortis très très rapidement.
Ça va arriver.
Ceux-là, c'était peut-être les plus parlants, entre guillemets, quoi. Et ça va arriver, bien sûr. Et on va passer tout de suite à l'anniversaire. Et là, c'est pas n'importe quel anniversaire, les amis. C'est.
Bah, non,
celui...
c'est bien. Merci, les mecs. Merci.
Non, il est déjà passé,
tiens. Ah, ouais, c'est vrai.
T'en auras qu'un anniversaire, pas deux.
Ok.
Bah sinon il prend un de plus hein, donc
Exactement.
Oh la vache, non.
Et oui, c'est la Dreamcast, vous l'avez compris mes amis, c'est la Dreamcast, regardez cette puissance technologique. La Dreamcast a 20 ans.
Elle rigolait pas, putain, elle était super puissante.
Don't Smile.
Ouais.
Et oui, la Dreamcast a 20 ans, Thomas.
Bah ouais.
Il y a 20 ans, tu faisais quoi? Tu t'en souviens quand elle est sortie, cette console?
Alors, je me souviens que je l'ai pas achetée quand elle est sortie, c'est parce que j'étais...
Au collège.
T'étais blasé.
99, j'étais au collège, c'est vrai. J'étais en 3ème. Et bah,
t'avais
tout kiffé ou pas? Du coup, j'avais pas de thune, donc j'ai attendu un petit peu. Moi, je l'ai eu en 2000. Mais avec le meilleur jeu, un des meilleurs jeux de tous les temps dessus, direct, donc ça va.
Sorti le 27 novembre 98 au Japon.
Mais
exact.
Surtout,
mais chez surtout, nous, le 14 octobre.
Le 14 octobre, chez nous, mes amis.
Vous qui êtes un peu plus avancé dans l'âge et qui aviez de la thune à l'époque.
Oui.
Vous l'avez pris à la sortie?
Oui.
Oui, oui.
Moi, je trouvais que c'était dans un magasin.
La version japonaise et européenne après.
Mais le 14 octobre.
99.
99. Oui, c'est ça, de l'année suivante.
Oui,
ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, je bossais dans un magasin à Reims et j'ai économisé, j'ai réussi à l'avoir pas Day One parce que fallait pas charrier. Mon meilleur pote, lui, avait pris la version japonaise.
Ah si, moi je prenais toutes les consoles Day One du Japon direct.
Oh, bah, vous étiez déjà dans la vie active, vous? Moi j'étais au collège encore à ce moment-là.
Non, j'étais à la fac, c'était juste que j'avais bossé l'été.
J'avais un pote qui bossait dans une boutique, donc forcément il importait des consoles et hop là.
Mais je l'avais eu à Noël.
C'était plus facile
aussi
pour les acheter, quoi.
Et je me rappelle que c'était un peu, je sais pas, devait y avoir un autre type dans mon collège qui l'avait. Et tu sais, c'est un peu comme les francs-maçons, quoi. On se serrait la main, on se reconnaissait entre nous, quoi. On était les deux mecs à la Dreamcast, quoi.
Les mecs du 128 bits.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Alors il paraît que c'était une console de folie avec un modem.
Bah ouais.
Qui s'en souvient de ce ça?
Bah ouais. C'était quand même un des arguments massus, c'est que tu pouvais brancher
futur,
la console sur la prise téléphonique
avec joueurs.
Avec un modem 56K.
Ouais, avec un modem 56K, tu pouvais aller sur le net avec. Machine.
C'était pas un 33K
Oui, en effet, oui, t'as raison.
C'était même pas un 56K. Attention, 56,
tout à fait. Ouais, non, t'as raison, absolument, c'était un 33K.
Et tu te connectais
sur Dream Arena avec le CD dédié. Tu pouvais chatter, avoir des conversations. En effet, tu pouvais jouer à Chuchu Rocket et certains jeux en ligne qui sont restés célèbres parce que c'était finalement les premiers sur console.
Tu pouvais faire pleurer tes parents à la fin du mois sur la note du
téléphone. Si t'avais rejoué à Phantasy Star Online, voilà.
Ouais,
c'est Quake, comme Greg, il jouait à Joypad très très souvent à Phantasy Star Online.
Il jouait à la rédac.
À la rédac, évidemment.
Ah, putain, chez Hachette, vous avez dû recevoir des notes.
Bah, franchement, je sais pas, mais j'imagine. Ouais.
Moi, on m'avait raconté à l'époque que chez Player One, le problème des factures était surtout lié à celle du Minitel. Parce qu'il faut se rappeler qu'à une époque où le web était pas encore très développé, il y avait le Minitel rose. Et que c'était surtout ça, les factures.
Ah ouais.
En tout cas, c'était le cas chez Player One. Ouais.
D'accord.
Bon. Les anciens de Players. Regardez.
Voilà, salut.
Salut.
Thomas, comme prévu. Alors, il y avait quoi au lancement sur cette machine? Est-ce que vous vous en rappelez?
Bah oui.
Il y a quand même des belles choses.
Oui, hein. Je vais de mémoire, hein, attention.
Attends,
moi j'ai de mémoire. Blue Stinger, Dynamite Cop, Bon Apogee P2, Power Stone, Ready to Rumble, Sega Rally 2, Incoming, Sonic Adventure, Speed Devils, Toy Commander, Trickstyle Virtua. Non, Trickstyle, pardon, je sais pas ce que c'est que Trickstyle.
Ah, si, c'est un jeu de. Trickstyle
avec
la pub avec Rocco Siffredi. C'était un jeu de skate volant.
Future Fighter 3 TB. Et voilà.
Ça, c'est le line-up européen, ouais.
Ouais, absolument.
Oui, je crois.
Ouais,
tout à fait.
On n'avait pas eu Pen Triathlon aussi?
Non, bah, c'était en japonais, ça. Parce que moi, je l'avais en japonais. Et
tournait tout le temps sur Game One à l'époque. Ils avaient fait un clip avec et je me disais, putain, c'est beau, mais ça a l'air nul.
Oui, oui, c'était pas terrible. C'était bizarre comme jeu, mais c'était beau. En tout cas, ouais. Moi, je me souviens surtout de Blue Stinger. Bah, c'était rigolo, Blue Stinger, quand même, parce que.
T'es une sorte de Resident Evil.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement.
Avec ça, un look un peu animé.
Oui, enfin un look américain, quoi. C'était un peu bizarre.
Un peu chelou.
Bah, parmi les premiers.
Mais c'était pas moche, quoi. C'est ça qui est.
Mais c'est Monaco GP hein, qui avait une tarte.
Ah, Monaco GP, j'ai adoré, moi.
Et puis.
Et Power Stone, j'ai adoré aussi. Power
Stone. Tu l'as pas. Ouais, qui était.
De quoi?
Non, parce que je savais plus si t'avais cité Soul Calibur dans les. Je sais plus si.
Soul Calibur, il a
non, ça arrive après.
Soul Calibur après. Mais moi, ça a été mon premier jeu.
Moi, c'est pas compliqué.
Et putain,
moi, Soul Calibur, c'est le meilleur jeu de baston pour moi de tous les temps. Mais
merci.
Dreamcast, je parle.
On est deux.
Bah, voilà. En tout cas,
je sais pas si on a fait mieux depuis.
Mais visuellement, c'était extraordinaire en plus à l'époque. C'est-à-dire
qu'on
était encore dans une époque où l'arcade tenait le haut du pavé technologique.
Et là, l'arcade s'est fait botter le cul.
Voilà. Avec, déjà les adaptations de l'arcade sur Dreamcast étaient assez simples parce que l'architecture technologique était la même. Les bornes d'arcade Sega c'était donc les cartes Naomi et c'était la base du système de la Dreamcast qui, faut le rappeler, était quand même drivé par Windows CE, quoi. Donc c'était assez rigolo à l'époque de voir ce logo Windows sur une
console.
Et en effet, visuellement, Soul Calibur, moi ce qui m'impressionnait encore des années après, c'est que je trouvais que le jeu était toujours aussi beau.
Mais
et même aujourd'hui, quand on le regarde, il a une finesse, il a des effets de lumière.
Il est toujours qui reste.
Non, c'était dingue. Oh, c'était complètement dingue.
Les animations de ce jeu, mais
les animations, la modélisation des langues, des dents.
Ouais. Puis même le concept d'un jeu 3D, voilà, où t'as vu vraiment.
Le Run que tu n'avais pas avant non plus.
Exactement. C'était très impressionnant.
Alors, pour le coup, à mon avis, vous deux, vous n'êtes pas concernés, mais pour les jeunes joueurs de l'époque qui passaient pas forcément par l'import, c'était aussi l'arrivée du 60 Hz. Enfin, enfin des jeux fluides et rapides, parce que avant, à moins de modder sa console ou justement de taper dans l'import US ou japonais, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude d'avoir en Europe. Donc là, c'était, il y avait même des menus de test justement pour que les gens puissent voir si leur télé supportait le 60 Hz directement. Et ça, mine de rien, c'était une sacrée révolution aussi.
Mais je trouve que c'est ce qui fait aussi la sympathie de cette machine, c'est que elle est vraiment très liée à l'arcade. C'est-à-dire que beaucoup de ces titres majeurs sont des purs jeux d'arcade qui aujourd'hui pourraient nous sembler peut-être un peu creux, je pense par exemple à Crazy Taxi. C'est vrai que la proposition même de rejouabilité ou même de profondeur,
c'est
elle n'est pas
score.
Tellement présente, mais voilà, c'est du high score. Il y a même des titres qui sont cultes sur cette machine comme Virtua Tennis.
Oui.
C'est d'abord un jeu d'arcade plus qu'une simulation,
oui,
et
bien.
Pourtant à
mais
l'époque c'était le jeu de tennis, mais oui. Pareil, enfin
c'était extraordinaire.
C'est
des
infini,
heures et des heures, quoi.
Mais moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est surtout qu'elle a fait arriver des jeux vraiment. Enfin, il y a des licences qui sont nées sur cette console. Je crois qu'il y en a qui s'en rappellent même pas, quoi.
Bah, genre NBA 2K,
bah voilà, les NBA 2K, NFL 2K, Visual Concept a commencé sur Dreamcast.
Franchement, je m'en souvenais plus du tout, pour être honnête.
Ah, voilà,
je savais même pas.
Et à l'époque, c'était, enfin, c'était démentiel. À quel point c'était beau déjà pour ce genre de console. Mais des jeux comme Jet Set Radio, comme Seaman. Tu sais, Seaman, le jeu chelou.
Le jeu le plus bizarre de tous les temps.
Voilà, dont tu parles souvent.
Le perso dans l'aquarium.
Mais le Sonic Adventure aussi. Là, on revient à quelque chose d'un peu plus grand public. Mais Space Channel. T'as tellement de trucs qui sont arrivés sur cette console et qui ont eu un héritage par la suite. Ready to Rumble aussi.
Oh,
qui était un des premiers jeux. Un des premiers jeux.
D'ailleurs, je crois que Michael Jackson, il adorait ce jeu. Il me semblait qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait. Il était fou de ce jeu-là, et il n'arrêtait pas d'y jouer. Il était dedans d'ailleurs, exactement.
Bah ouais.
Et oui, non, mais t'as raison, ça a lancé des trucs un peu.
Ah bah, et puis il y en a un qu'on n'a pas encore cité, mais il y a Shenmue.
Qui
a
cité Shenmue, évidemment.
Qui a aussi, enfin, on parle des genres qui ont été lancés.
Et 20 ans après.
On rappellera le tweet récent
de
CD Projekt à travers le compte de Cyberpunk 2077, qui remerciait Yu Suzuki pour Shenmue et pour en gros avoir ouvert la voie
exactement.
De ces mondes 3D ouverts, ambitieux, et pour le cas de Shenmue, avec une vraie volonté de réalisme, et on aura l'occasion, je pense, dans le prochain podcast avec Shenmue 3, de reparler peut-être de la saga. Mais le truc qui était extraordinaire à l'époque avec Shenmue, c'était l'ambition de ce titre qui était totalement démesurée, quoi.
Ah ouais,
un triple A qui proposait de vivre le quotidien, pour certains un peu plan-plan et un peu chiant, pour moi absolument génial, d'un jeune japonais, quoi. Et encore, je sais pas si vous vous remémorez aussi de la claque visuelle qui était tout titre à l'époque.
Fantastique.
C'était du jamais vu. On n'avait jamais vu un jeu aussi réaliste et aussi ambitieux visuellement, quoi.
Un petit semi-ouvert, on va dire.
Oui, semi-ouvert, et puis en plus qui se voulait crédible, quoi, avec des horaires pour chaque personnage,
routines,
avec des interactions. Exactement, c'était
de
quand
l'annexe,
même
avec plein de trucs qui servent à rien, mais comme dans la vraie vie.
Exactement.
Il s'appelait Projet Berkeley, d'ailleurs, au début de mémoire.
Ouais, quand il était à l'époque développé sur Saturn, avant que le développement passe sur Dreamcast.
Et puis aussi, on a parlé de Soul Calibur, mais au-delà de ça, c'était la console, mine rien du versus fighting, parce qu'on a eu des portages de l'arcade des Capcom versus SNK, Capcom versus SNK
avec
2.
4 ports manettes en façade. Ça, on l'oublie aujourd'hui,
c'est
mais c'était une grosse nouveauté quand même.
Alors que c'est juste génialissime.
À l'époque, tu parlais de Power Stone, on pouvait y jouer à 4 facilement, justement parce que chacun avait besoin d'une manette. Faut se rappeler qu'à l'époque encore de la Saturn, de la PlayStation, quand on voulait jouer à plusieurs, fallait
acheter Nintendo 64.
La Nintendo 64, mais sinon, fallait un multitap, fallait ce genre de choses. Et aussi,
et la manette, alors personne n'en parle.
La manette est justement
le
VMU. C'était
bande
ça,
de
c'était.
Blaireaux.
Mais ça aussi, c'était quand
c'était
même.
Même pas écrit.
Enfin, c'était encore avant l'heure, quoi. Encore voilà. Sega pionnier, parce que le VMU, c'était donc une carte mémoire avec un écran à cristaux liquides.
Virtual Memory Unit.
Qui permettait, pour certains jeux, je me rappelle par exemple de Sonic Adventure, oui. Qui c'est proposait une sorte de Tamagotchi-like, bah,
c'est ça, exactement.
Quoi.
J'allais dire de mini-jeu, voilà. Mais oui, c'était
ça, quoi. Je l'emmenais lié au lycée, moi, bah, la
moi
journée pour les filles.
Au collège, évidemment. À l'époque, ouais, mais ouais, moi
Power
aussi.
Power Stone, c'était un shoot'em up.
Non, Power Stone, c'était un jeu d'arcade.
Power Stone, c'est le...
Non, mais le, dans
ah oui,
VMU,
pardon,
ah
oui, pardon.
Ouais, t'avais un mini shoot'em up dans le VMU aussi. Enfin, t'avais plein de petits trucs.
Dans Resident Evil, t'avais Code Veronica, t'avais justement ta jauge de vie qui apparaissait. T'avais pas besoin de faire pause pour voir où t'en étais.
Mais ça, c'était tellement bien trouvé.
Mais ça,
c'est presque asymétrique.
Quand
ils
ça n'a jamais été repris.
C'est, ils ont vraiment des. Mais je
pourquoi,
sais pas.
Pourquoi n'a jamais.
Alors que c'est tellement évident.
Personne ne s'est dit, tiens, on va remettre un écran mais sur la manette. Ça a l'air tellement simple en plus.
Bah, parce que la génération d'après, on a abandonné les cartes mémoire.
Bah oui, mais
pour,
c'est,
oui, c'est pour des disques durs. Voilà oui. Pourquoi personne ne l'a repris.
Bah en fait, le problème de cette
console,
c'est
réponse de Monsieur Thomas.
C'est qu'elle était trop en avance sur son temps. En fait.
Mais c'est ça. Mais vraiment, moi je pense
qu'elle est en avance sur tout.
Mais c'est exactement
sur tous
ça.
Les aspects,
en fait,
c'était
trop
avance.
En avance quelque part. Ouais. C'est peut-être ça qui les a tués en fait.
Et
parce
c'est pour
que...
ça que certains aussi considèrent que la Xbox 360 avec le Xbox Live est d'une certaine manière l'héritière de la Dreamcast. On sait aussi qu'à l'époque, il y avait eu pas mal de rapprochements entre Microsoft et Sega. Une époque où Microsoft n'avait pas encore lancé la Xbox et cherchait carrément à racheter un énorme groupe pour se lancer. Il y avait eu à l'époque même des discussions avec Nintendo. Microsoft aurait pu racheter Nintendo avant de lancer la Xbox. Et cette porosité entre les deux sociétés avait été relevée finalement par la sortie de Shenmue 2 aussi sur Xbox. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais à l'époque, les jeux Sega sortaient sur les consoles, sur les plateformes Sega et pas ailleurs. Et voilà, ça avait amorcé évidemment la mue et la révolution de l'entreprise Sega. Quoi.
Exactement.
Et puis il y avait une batterie d'accessoires aussi dédiée à tout un tas de jeux,
notamment pour jouer à Typing of the Dead.
Exactement.
Attends, et surtout les.
Les maracas. De Samba de Amigo.
Et le flingue avec la croix directionnelle dessus qui a posé pas mal de problèmes à Sega. Aussi en termes de brevets.
Ouais, exactement.
Ah, c'est vrai, oui.
Flink avait été designé par un Français. Si
absolument,
je dis pas de bêtises.
C'est un Français qui avait déposé le truc et c'est lui qui a fait bon, non, on n'a rien à voir. Pardon.
Pardon, de quoi
mais
parlez-vous,
voilà,
monsieur?
C'est une console où tu avais des jeux comme Typing of the Dead, qui est un rail shooter
oui,
avec un clavier où il faut juste taper des mots. En plus, mais d'une débilité, enfin, ça partait dans le scato. Je sais pas si vous avez creusé un peu, mais je l'ai fait avec un pote à une époque.
Je
suis
un pote.
C'est ridicule de débilité ce que tu dois taper dans Typing of the Dead pour dégommer du zombie. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. On parlait de Seaman, il y avait un accessoire justement aussi avec Seaman.
Bah,
il y avait un micro.
Avec le micro.
Enfin, t'as l'impression que tout était possible sur Dreamcast.
Ouais, exactement, les mecs se sont lâchés complètement. Allez.
Bah c'est ça, il y avait une effervescence créative, alors peut-être rendue possible par la technologie, mais je me rappelle.
C'était peut-être un dernier atout aussi. Qui
non, mais je me rappelle de titres comme Toy Commander, voilà.
Saloperie de jeu. Non, vraiment.
Il y a Rez aussi qui est né sur Dreamcast. Il est arrivé rapidement après sur
PS2. Toy Commander, c'est Reynald, ça.
Oui, mais je lui avais dit que son jeu était trop dur. Il m'avait dit que oui, et j'avais raison. Ça m'avait rassuré d'ailleurs.
Sur tes skills. Ah. Ouais, je sais pas, vous avez d'autres anecdotes de.
Non, moi je suis juste très nostalgique de cette console parce que c'est une console qui m'a énormément marqué.
Bah justement, je te propose de retourner dans le temps.
Ouais. Non, mais ouais, il y avait une vraie effervescence, il y a des titres majeurs.
Il y a même des jeux qui sont pas sortis et qui, moi, ça m'a brisé le cœur.
C'est vrai?
Bah oui, Castlevania sur Dreamcast qui s'annonçait vraiment, vraiment très joli.
Qui avait l'air magnifique, putain.
Parce que aujourd'hui, c'est un peu moins joli à regarder, mais à l'époque, ça avait l'air vraiment cool. Bon, malheureusement, ça se fera pas.
Et j'ai un trou de mémoire, Half-Life était sorti au final ou pas sur Dreamcast? Non, il n'était pas sorti.
Alors, Gearbox, j'étais allé chez Gearbox.
Jamais de la vie.
Et ils m'avaient montré.
Ils n'avaient pas payé
une version d'Half-Life parce que c'est eux qui devaient s'en occuper.
Ouais, ouais.
Et ben, je me rappelle plus, mais ils avaient une version boîte.
Non, mais je crois qu'il n'est pas sorti en fait.
Il est trouvable sur
le
net.
Oui, c'est ça maintenant.
Il y a une version Gold.
Mais je me rappelle qu'à l'époque,
il était passé Gold et
parler,
tout.
Quoi.
Et il l'avait chez eux. Hein. Mm-hmm. Pitchford nous l'avait montré.
D'accord.
Fait, ah, regardez, on a ça, machin, on a Halo.
Ça, c'est plus qu'un collector.
Mais je crois que tu as raison, il est jamais sorti. Ça a été annulé au dernier moment.
Ils ont vu qu'ils n'avaient pas vendu assez de machines. D'ailleurs, ils en ont vendu combien de machines
entre 9 et 10 millions dans le monde. Ouais.
C'est d'une tristesse.
Ouais, ça fait
mal.
C'est
toi qui es triste.
Ah oui, je suis triste.
Tu connais les Tristus et les Regulus.
9 à 10 millions, je suis vachement triste. Après, c'est la fin d'une époque aussi. On parle surtout de jeux d'arcade. Bah, c'est un modèle qui malheureusement périclite depuis cette époque-là. Quoi.
Exactement, tout à fait.
C'est la fin du Sega constructeur.
C'est la fin du rêve américain pour Sega.
Voilà. Oh, il m'a flingué cet anniversaire. Oh,
la fin du Shenmue style, ou pas, qui revient 20 000 ans après. Bah voilà, hein, c'est RT, c'était triste.
Acheter Dreamcast, voilà.
Acheter Dreamcast.
On peut ?
Dites-nous ouais. aussi, c'est racontez-nous vos anecdotes.
Sur le net, hein. Ouais.
Ça va assez gars, les sous ou pas ?
Ah non, je pense pas.
Ah bah voilà, bah alors
ça va Yakuza. Ça
ah bah je peux te dire que celle-là, les sous sont allés à Sega.
C'est vrai ?
Et au revendeur qui m'a réparé aussi la lentille.
Ah oui,
ah oui, la lentille.
Ah oui, la lentille.
De fausse lentille.
Oui, c'est un gros lentille, ouais. Ah oui, le Kirk. Eh bien, voilà, c'était l'anniversaire. Hein, un anniversaire dont on se souviendra longtemps.
Ouais.
T'as déprimé. Il est super déprimé. Bah, c'est dites-nous vous aussi, racontez-nous vos commentaires.
Mais
dans,
il voit sa
vos
jeunesse,
anecdotes dans les commentaires.
Non, j'ai essayé juste de retrouver le.
Et dites-nous si Plume est relou ou pas.
J'ai oublié le nom du compositeur, mais il y a un truc qui est emblématique aussi de la Dreamcast, c'est évidemment sa spirale.
Ah oui, la
en
spirale.
Tant que logo, moi j'adore ce son.
Rouge et bleu.
Et je voulais pas
de...
je veux pas me tromper.
La signature
là,
sonore au démarrage, tu veux
voilà,
dire
la signature sonore, elle est d'un compositeur japonais.
C'est trop bien. J'aimais bien la sonorité.
Très célèbre, mais je veux pas confondre.
Cristalline.
Je sais plus qui est-ce.
Tu trouveras pas.
Bon, je retrouverai pas.
C'est sûr quand on cherche,
vous,
on trouve pas.
Vous-même, vous.
C'était
vous
pas censé représenter l'infini, en fait, comme
non,
ça.
Non, mais c'est un compositeur de cinéma très
non, mais
connu,
je parle de la spirale.
Non, c'est les symboles quand il y a des tuyaux d'arrosage, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Non, mais ça représentait quelque chose. Si vous trouvez, dites-le-nous.
Ah, ça, je sais pas.
Je sais pas si ça représentait l'infini ou la connerie humaine de Plume.
De
film Furio de Kira
avec David Bowie.
C'est pas Kurosawa
le compositeur. C'est
le compositeur, c'est
Yamamoto.
David Bowie.
Non, bah non.
Non, mais vous l'avez pas, les gars, cherchez pas.
Ah, il le sait, lui.
Non, ah non, je sais pas.
Tu sais
non,
pas.
Tu non,
sais
ça parle,
bah non, il sait même pas ce que c'est Furio.
Bah si, c'est un dessin animé, non ?
Non.
Non, je déconne.
Non, en vrai, je sais pas.
C'est vrai ? Pour de vrai,
oui,
ou
oui, pour de vrai.
Bah, si vous savez, dites-le-nous dans les commentaires.
Et tu connais la carrière de David Bowie en plus.
Et insulter Plume.
Pas des masses, non ?
C'est vrai ?
Ah, ah là, ouais, ah, d'accord.
C'est pas possible.
Ah ouais, t'es à ce niveau de merde existentielle. Ah,
tu sais qu'il est dead, David Bowie.
Ah la vache.
C'est vrai ?
Ouais.
Putain, incroyable.
Ah non, mais là, je te regarde comme ça parce que c'est pas possible, Thomas. Il y a des choses qui sont pas possibles dans
c'est
la vie.
Des choses qui ne sont pas possibles, Thomas.
Pas
tu
possible.
Dois refaire.
Non, mais en plus,
alors,
non, mais c'est pas Ryuji Sakamoto.
Mais non, mais je t'ai dit que c'était pas lui. Mais c'est pas possible.
Vous sentez que ça change en tous les sens, là, ou pas ?
Exactement.
Bon, bref.
Bah, attends, il cherche une musique importante.
Vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires.
Exactement.
Ou faire un Shazam.
Celui qui trouve, il aura droit à un bisou de Plume. Voilà.
Exact.
À domicile.
Parce que.
Ah, ben je vais essayer de trouver alors, comme ça, il sera obligé de venir m'embrasser.
C'est trop bizarre.
Il va te débaiser les pieds, je crois, surtout.
Et la tête.
Alouette. Voilà les 20 ans de la Dreamcasto. RIP la Dreamcasto. Et si vous en avez chez vous, bah, ne le revendez pas sur le bon coin parce qu'on va croire que ça craint.
Ouais, filez-les moi plutôt.
Voilà, envoyez-les à Plume.
Comme ça, j'irai changer la lentille.
Mais c'est quoi cette histoire de lentille ?
Non, c'est rien, c'est
j'ai
rien.
J'ai pas un épisode ou quoi ?
Bah, des fois, tu changes un peu la lentille.
Et là, ton écho, le dauphin Dreamcast ne tourne
ah,
plus.
Oui. Ah oui, le Turc !
C'est celui qui est sur un CD verbatim. C'est pas.
Ok, t'es match comme prévo. Eh bien, je crois, mes amis, qu'il est l'heure de passer au hors-jeu.
Tu croyais qu'il y avait un jingle, c'est ça ?
Pas du tout.
Je crois qu'il attendait le jingle.
Non, parce qu'on me dit toujours de laisser un petit temps, donc je laisse un petit temps.
Ah, d'accord.
Connard. Et de quoi tu vas nous parler sur ce hors-jeu, Thomas ? Parce que je crois que c'est toi qui t'y colle cette semaine.
Bah ouais, pour une fois. C'est comme quoi, des fois, je regarde des trucs, ça m'arrive.
Tu connais Désenchantiep ou pas ?
Exactement, Désenchantiep, saison 2. Alors, Désenchanté en français ou Disenchantment dans sa version originale, qui est arrivée sur Netflix le 20 septembre dernier. Donc, 10 nouveaux épisodes qui viennent prendre la suite directe de la
première. Direct,
direct de la première. D'ailleurs, tu m'avais dit qu'il y avait un récapitulatif au début.
Exactement.
Ce qui est tout à fait faux. Puisque,
ah, moi je l'ai vu. Hein.
Ah, bah moi je l'ai pas vu. Donc,
tu te fous de ma gueule ?
Non, c'est pas dans mes habitudes.
Poufi, tu l'as vu toi ou pas le début ? Est-ce qu'il y a un récapitulatif ?
Ah, ok, bah, voilà. bah moi je l'ai pas vu.
Tu t'es fait avoir.
Bon, bref, ça prend la suite de la première saison. Du coup, c'est quand même mieux de savoir.
Je sais pourquoi.
Où on avait quitté la
princesse. Je voulais pas te couper, mais je sais pourquoi. Parce que t'as regardé la saison 1 et dans la continuité, t'as tout de suite enchaîné sur la saison 2.
Bah peut-être.
C'est
écoute.
Sûr et certain.
Ok.
Ils se sont dit, bah non, tu l'as vu, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse un résumé ?
Ok, tu m'as eu.
Bah oui. Bref, vas-y, je t'en prie.
Donc, on retrouve évidemment le trio composé de la princesse Tiabini, Delphos qui est mort au début de la saison, mais bon, voilà. Et le démon Lucy. qui vont repartir en fait à l'aventure. On avait quitté Tiabini dans une bien périlleuse situation à la fin de la première saison, puisque sa mère, la reine Dragmar, était de retour. Et cette deuxième saison va s'ouvrir justement sur les retrouvailles de Tiabini et de Dragmar, qui n'est peut-être pas aussi sympathique et bienveillante qu'on l'aurait imaginé au départ. On commençait à se douter de quelque chose avec le dernier épisode de la première saison. Et du coup, la saison 2 de Disenchantment, elle va partir au début un petit peu dans tous les sens. À chaque épisode, en fait, on va se retrouver dans un lieu un petit peu différent. C'est une saison qui bouge, beaucoup plus que la première, où on restait plutôt dans les alentours du château du roi Zog.
Et du bar,
effectivement, on alternait entre le château et le bar. Et là, en l'occurrence, on va beaucoup plus voyager, en tout cas dans la première moitié de la saison 2 de Disenchantment. Essayez de vous concentrer encore un tout petit peu, s'il vous plaît. Et du coup, ça apporte un petit peu de variété, mais au détriment peut-être parfois de la cohérence, en termes en tout cas d'intrigue. Il y a des épisodes où ça n'avance pas forcément beaucoup, puisqu'on passe plus de temps en fait à découvrir des lieux, des tribus, qu'à véritablement faire avancer le fil rouge, parce qu'évidemment il y a quand même encore un fil rouge avec les personnages principaux qu'on avait laissés à la fin de la première saison, la belle-mère de Tiabini qui évidemment revient, et puis on découvre que Tiabini, elle a un passé très trouble dont elle ignorait l'existence, et sa mère en fait va lui permettre de comprendre un petit peu qui elle est, qui est sa famille, et quelle est un petit peu sa destinée, puisqu'en fait Tiabini c'est finalement un peu une héroïne de Dragon Quest. Elle le savait pas, mais elle a une destinée un petit peu particulière. Donc voilà la thématique qui va guider un petit peu cette saison 2. Avec évidemment une fin suspensive, puisque la série a déjà été renouvelée pour deux saisons supplémentaires qui vont arriver en 2020 et 2021. Donc il y aura forcément au moins 40 épisodes de Disenchantment.
Mais qu'est-ce que c'est trop court à chaque fois?
Il y a Bart Simpson.
Parce que je regrette un petit peu, mais bon. Alors, non, tu trouves pas?
Non, tu sais que moi je regarde pas grand-chose, donc les épisodes de 26-27 minutes, c'est parfait.
D'accord.
Comme ça me permet de pas les couper et de pas les regarder en plusieurs fois. Donc pour le coup, c'est un bon format, notamment pour les pauses déj. Hein.
Tout à fait.
On va pas se le cacher. Et alors en termes d'humour, on est vraiment dans les canons de la première saison. Donc si vous n'aviez pas accroché, il y a pas mal de lecteurs qui nous avaient fait part de leur relatif désintérêt pour la première saison. Voilà, on en a deux sur ce plateau.
Moi j'adore. Désolé,
sorry, pas sorry.
Et c'est exactement la même chose, puisque de toute façon, on retrouve aussi. Alors c'est pas Groening qui l'écrit, mais produit par Groening, David X Cohen, une partie du cast de Futurama au doublage, donc Tress MacNeil, Maurice LaMarche, Billy West, etc. Donc moi je trouve que ça marche très bien. Alors c'est pas une série qui est hilarante, je vous l'accorde, mais il y a des jeux de mots, des expressions. La scène qu'on vient de voir avec le roi Zog qui émerge des buissons et qui fait une référence fabuleuse à Futurama, ça fait partie des moments quand même vachement sympas de cette saison 2. Alors c'est pas évidemment à se taper le cul par terre, mais la dimension aventure fait que il se passe énormément de choses. Et je trouve que c'est visuellement assez varié. Enfin, si on y fait attention, il y a pas que des gags visuels. C'est comme les Simpsons et Futurama. Il y a aussi c'est pas que des gags au niveau des répliques. Oui. C'est aussi des gags qui sont visuels et présents à l'écran. Donc si vous avez accroché à la première, a priori vous allez bien aimer la saison 2. De toute façon, c'est 10 épisodes de grosso modo 25 minutes. Donc ça se dévore quand même assez vite. Le problème, c'est que il faudra attendre 2020 pour connaître la suite des aventures, mais on gagne, on va dire, en intensité, et on a surtout un univers qui s'élargit beaucoup plus que la première, qui était plus une lettre d'intention et qui posait un petit peu les enjeux au départ. Donc voilà, c'est sur Netflix depuis le 20 septembre dernier.
Parfait, merci beaucoup mon cher Thomas.
Et les musiques sont encore mieux que la première saison, voilà.
Quelle classe. Donc vous avez pas trop aimé, mais c'est pas grave, on s'en fout.
Désolé.
Mais ils connaissent rien, ils aiment pas, ils trouvent pas le compositeur.
Ça t'as la ramasse les mecs.
Les mecs.
Je sais même pas ce que vous faites là en fait. je m'interroge là.
C'est vrai. Et Poufy qui se marre comme une baleine, on sait pas pourquoi.
D'ailleurs, parce que Poufy, en fait, pendant le podcast, a essayé de t'envoyer une boulette de papier, sauf qu'il a shooté directement dans l'écran.
Parce qu'il est pas bon.
Dans l'écran qui est juste devant lui. C'est-à-dire qu'il est même pas capable de lober par-dessus l'écran pour t'envoyer une boulette de papier. voilà pourquoi il est mort de rire, et pourquoi, à mon avis, la fin du podcast va être compliquée.
Et pourquoi il a pas fait une grande carrière de basketteur.
Et j'ai retrouvé le nom du compositeur.
C'est vrai.
C'est bien Ryuichi Sakamoto.
Je l'ai appris. Tout à l'heure, Yamamoto pour déconner, et j'étais pas loin.
Non mais là, faut arrêter là.
Tu repasseras le podcast.
Tu
repasseras le podcast.
Ça n'a rien à voir.
Je m'en fous, j'étais pas loin. C'est eu un flash comme ça.
Ah oui, t'as eu un flash.
Et j'ai appris ça grâce à la news Dreamcast, un des plus grands compositeurs de cinéma derrière le son du Boot, écrit par Julien Verneau le 27 novembre 2015.
C'est vrai? Ouais.
Voilà.
Ok,
c'est
bah
pour
écoute.
Ça qu'il savait qu'il l'avait dans un
ouais,
coin.
C'est ça, en fait. Mais...
Le compositeur Ryuji Sakamoto, auquel on doit les bandes son de Furio, Le Dernier Empereur ou encore Talon Aiguille. Voilà.
Et bien voilà, nous avons la réponse.
Que des grands classiques du 7ème art, c'est ça?
C'est vrai?
Bah oui.
Je sais pas, non,
exactement.
Mais...
Bah oui, complètement.
Faudra okay. parler un jour de,
Talon
ce, de ce problème.
Aussi.
Ouais. Bah ouais,
c'est un film préféré.
Ouais, ça. Ouais, qu'il avait, c'est Hideki Naga...
Shima.
Naganuma,
ah,
donc
pas
le
loin.
Compositeur de Jet Set Radio qui révélait de nouveau cette anecdote connue
exact.
Sur le son du boot Dreamcast. Hein, Poufy?
Quand t'as Trace qui improvise des noms et se trompe d'une syllabe à chaque fois, c'est quand même assez dingue.
Ah, je suis pas loin quand même, merde, à chaque fois.
T'as dit quoi?
Il a dit Yamamoto de manière très raciste et c'était Sakamoto, voilà, c'est tout.
Non, c'était pas Sakamoto, t'as rien compris.
Si, c'était Sakamoto. Toi, t'as dit Yamamoto.
Ah oui, c'est ça, pardon. Okay.
Vous voulez pas régler fait... différent en coulisses, non?
Non,
t'as fait
bon.
Comme dans Les Inconnus, tout simplement.
Bah, je suis
et Toshiba,
tout.
Toshiba.
Bah, ok, d'accord, voilà. Si vous voulez. Ça, c'est raciste, par contre.
Non, non, pas du
si,
tout.
Si, si.
Bah, non.
Attends, pull rouge chinois, là, je te vois. Je suis sûr que tu...
Bon, n'oubliez pas de libérer Hong Kong. À plus.
Toi, tu vas avoir des problèmes.
Ce sera mon dernier podcast. Tu peux travailler chez Blizzard maintenant, c'est bon.
Ok, c'est parti.
Bon, bah voilà, allez, sur cette hilarité hilarante. Tandis que Julien Verneau, je sais pas ce qu'il fait ailleurs.
Il Shazam.
Il est en train de chercher plein de trucs.
La Primo Casto.
Et là, il manque juste le bruit de la console qui charge les sauvegardes, tu sais. Ça fait toujours un
ah
bip.
Ouais. Non, je sais plus.
La j'en console suis... qui réveillait les parents. Enfin
j'en,
bref.
J'en souviens pas de ça. C'est vrai?
Ouais. Bah les miens
je me souviens du modem mais j'ai du bruit des sauvegardes.
Moi j'étais dans la chambre d'à côté donc je flippais ma race quand j'allumais la Dreamcast en pleine nuit. Mais bref.
Je me souviens pas du tout de ça. C'est bizarre quand même.
Bah parce que toi t'étais adulte et responsable.
Oui c'est vrai.
Voilà.
Possible. Ok. Bon bah voilà hein, c'était le mot de la fin. On s'est quand même bien marré,
Victorien.
Adulte
et responsable.
Exactement. Ainsi s'achève l'émission 508. De Gameblog, n'est-ce pas, que vous avez suivi avec assiduité, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à répondre au, à parler dans les commentaires de vos anecdotes sur la Dreamcast, sur Plume, sur Tiger, sur Thomas Pilon.
Sur vos lentilles aussi.
Et sur vos lentilles, bien sûr.
Sur vos changements de lentilles.
Tout à fait. Et puis nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau podcast émission 509, évidemment, avec Plume et peut-être d'autres gens, je sais pas.
Beaucoup,
peut-être qu'il y aura pas Plume.
Que, là, c'est fou ça.
Parce que je pense que Blizzard nous aura appelé d'ici là. Donc,
on la fera avec les gens de Blizzard.
Donc, exactement, qui vont venir s'expliquer sur tout ce qui se passe. Merci à tous et à toutes. Et puis on se dit à très 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 bientôt. Donc du coup, d'ici là, bah, jouez bien, mangez bien et Tiger, bah, il vous félicite. Voilà.
Voilà.
Okay. Et merci encore. Ciao, à bientôt.